Nous sommes le lundi 26 septembre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une, le séisme politique annoncé a bien eu lieu. La droite ultra-conservatrice remporte les élections législatives en Italie. Giorgia Meloni arrive en tête avec plus de 20% des suffrages et revendique le poste de première ministre. Nous serons en direct avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome dès le début de ce journal. Un conseil des ministres très attendu également ce matin en France. Chez nous, le gouvernement va présenter son projet de budget pour 2023. Trois textes à l'examen et pas un mot sur la réforme des retraites, mais quelques mesures fortes. Les détails avec Baptiste Morin. Et puis le foot, les Bleus battus par le Danemark hier soir. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rien n'y a fait, ni les appels à faire barrage venus de la gauche italienne, ni les avertissements lancés par la présidente de la Commission européenne ont empêché la droite ultra-conservatrice de remporter les législatives en Italie. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Rome, Frédéric Michel. Bonjour. Frédéric, est-ce que vous êtes là ? On a un petit problème avec Frédéric Michel qu'on va retrouver un petit peu plus tard, Dimitri. Mais je vous propose déjà d'écouter celle qui se revendique comme la future première ministre, Giorgia Meloni, qui a tout de suite voulu tourner la page d'une campagne violente. Elle promet de gouverner pour tous les Italiens. On l'écoute.
C'est merveilleux aujourd'hui.
C'est un moment heureux, vraiment très heureux. L'Italie a enfin retrouvé une colonne vertébrale.
Objectivement, nous avons vécu une campagne électorale qui n'a pas été belle, dans laquelle les tons étaient exagérés. Une campagne électorale violente, une campagne électorale agressive. Cependant, je pense que la situation dans laquelle est l'Italie, ainsi que la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne, est une situation particulièrement complexe à laquelle nous devons faire face. Une situation qui demande, disons-le, la contribution de chacun, qui requiert un climat serein et un respect mutuel qui est à la base de tout système démocratique.
Voilà la voix de Giorgia Meloni donc cette nuit. On a retrouvé la liaison avec Frédéric Michel en direct de Rome. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors la coalition qu'elle emmène, Giorgia Meloni, peut crier victoire. Les résultats sont quasi définitifs. Quels sont-ils ?
Oui, ce sont des résultats maintenant définitifs à 80%. Hein. Des bureaux de vote ont été dépouillés. Giorgia Meloni obtient un peu plus d'un quart des suffrages avec au moins 26% des voix. Ses alliés de la Ligue et de Forza Italia sont des scores modestes, eux, entre 8 et 9%. Mais la coalition des droites est largement en tête. La gauche accuse un retard de 17 points. Le mouvement 5 étoiles en fort retrait, mais avec 14% des voix, continuera à jouer son rôle de poil à gratter. Mais incontestablement, la grande gagnante s'appelle Giorgia Meloni. Elle écrase tout. Elle a réussi à faire de son mouvement post-fasciste le premier parti d'Italie et s'apprête à entrer dans l'histoire en devenant la première femme à diriger le pays.
Merci Frédéric Michel, qu'on retrouvera toutes les demi-heures dans Europe Matin jusqu'à 9h. L'actualité en France à présent, premier baptême du feu pour le gouvernement d'Elisabeth Borne avec la présentation du projet de loi de finances 2023.
Et il devrait acter la fin du quoi qu'il en coûte avec la fin du prêt garanti par l'État. Le PGE destiné aux entreprises ne sera pas renouvelé l'année prochaine. Même chose pour la prise en charge systématique du chômage partiel. Il contient aussi d'autres mesures fortes, Baptiste Morin.
Oui, la première, c'est le bouclier tarifaire nouvelle formule. En 2023, la hausse des factures d'électricité et de gaz sera plafonnée à 15%. Coût pour l'État, 16 milliards d'euros. Autre mesure pour le pouvoir d'achat, le relèvement du barème de l'impôt sur le revenu, 6,2 milliards d'euros, pour éviter aux Français les plus modestes de devenir imposables du seul fait des hausses de salaire liées à l'inflation. Dans ce projet de loi de finances aussi, un allègement de la CVAE, un impôt de production pour les entreprises, 2 milliards d'euros en moins en 2023, puis les 2 milliards d'euros restants en 2024. Le gouvernement devrait aussi gonfler l'enveloppe du dispositif MaPrimeRénov, 2,6 milliards d'euros, qui devrait être concentré sur les rénovations globales plutôt que sur les petits gestes. Enfin, ce projet de loi devrait augmenter également les dépenses de la mission travail de près de 7 milliards d'euros, notamment pour soutenir l'apprentissage.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Deux autres textes seront également présentés. Le budget de la sécurité sociale et les énergies renouvelables. Pas de trace à ce stade d'une quelconque mesure concernant la question des retraites. Pas un mot sur la réforme, même si dans ses différentes déclarations, l'exécutif maintient sa volonté de rouvrir le chantier avant l'été 2023.
Europe 1, il est 7h05. En Russie maintenant, la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine prend une tournure dramatique.
Ce n'est peut-être pas ce qu'avait prévu le Kremlin. Difficile de fournir des chiffres précis sur ces Russes qui refusent la mobilisation, mais il y a les images, que ce soit par la route, le train ou l'avion. Plusieurs milliers de personnes cherchent à fuir à tout prix. Bonjour Nicolas Tonev.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre spécialiste de la Russie, vous avez été correspondant d'Europe 1 à Moscou. Nicolas, à l'heure où l'on se parle, est-ce que l'on a une idée des Russes qui partent au front, réellement ?
Alors c'est très compliqué hein, parce que le recrutement semble se faire en dépit des âges, du bon sens, des métiers, des hommes. Par exemple, les chemins de fer russes ont été sommés de fournir 10 000 personnes alors qu'ils peinent déjà à remplir leur mission pour alimenter l'armée sur le front ukrainien. Donc ce sont autant de recrues qui n'auront aucune envie de se battre et qui partent pour certaines déjà ivres mortes. Hein, vieille tradition russe, le meilleur antidépresseur c'est la vodka. La recherche d'hommes se poursuit aussi dans les prisons. Selon certains sites d'opposition, il y aurait déjà 20 000 à 30 000 condamnés qui auraient signé pour partir sur le front. Et puis maintenant, ce sont les travailleurs immigrés d'Asie centrale qui sont incités à s'enrôler avec la promesse d'obtenir un passeport russe en un an de contrat militaire au lieu de 5 années nécessaires dans le civil.
Nicolas, le Kremlin est omnubilé par la guerre en Ukraine. Il peine en conséquence à tenir sa base arrière en Asie centrale.
Exactement, hein, l'armée russe et la diplomatie russe sont affaiblies. Et donc il y a deux conflits qui se ravivent, hein, l'un entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, l'autre entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. Il y a déjà plusieurs centaines de morts en quelques semaines sur ces fronts. Moscou n'a pas les moyens de faire fonctionner l'organisation du traité de sécurité collective dont elle est la patronne dans la région. Et c'est un autre signe que les militaires russes sont dépassés par toutes les missions qui leur sont imposées.
Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie à Europe 1. Moscou doit cesser d'agiter la menace nucléaire. Son utilisation aurait des conséquences catastrophiques. Avertissement de Washington qui a pris la peine de le faire savoir directement au Kremlin via ce que le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken appelle des canaux privés.
En Iran maintenant, l'heure est à la répression des manifestations pour davantage de liberté.
Liberté, c'est peut-être le slogan de ce soulèvement populaire que vous venez d'entendre à l'instant à Téhéran et dans plusieurs villes du pays. Des centaines, peut-être des milliers de femmes laissent tomber le voile et n'hésitent pas à braver le pouvoir au péril de leur vie. Une cinquantaine de manifestants tués par les policiers qui ont reçu l'ordre de ne faire preuve d'aucune indulgence.
Allez, 7h08, nous sommes à moins de 2 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar et on ne peut pas dire que les Bleus nous aient rassurés hier soir.
Ah, ça non, défaite 2-0 face au Danemark, on pourra toujours se dire qu'il manquait beaucoup de titulaires et qu'après tout, cela évitera à certains de prendre la grosse tête avant d'aller défendre un titre de champion du monde. Sauf que, Cyril de la Morinerie, il y a de vrais motifs d'inquiétude pour ces Bleus-là.
Oui, Didier Deschamps doit se poser des questions car après une victoire probante contre l'Autriche jeudi dernier, les Bleus sont retombés dans leur travers. Mis à part 20 bonnes premières minutes, les Français n'ont pas existé. Lloris, Pogba, Benzema n'étaient pas là. Et bien le manque d'expérience s'est ressenti sur le terrain. Même Kylian Mbappé, la superstar de l'équipe de France, d'habitude irréprochable, a manqué ses tentatives. Or au Qatar, les Français, qui retrouveront notamment les Danois dans leur groupe, devront faire beaucoup mieux, confirme le sélectionneur Didier Deschamps.
Qu'on ait encore eu une piqûre de rappel aujourd'hui par rapport à ce qui va nous attendre dans 2 mois. À partir du moment où on en met moins, c'est compliqué pour tout le monde. Le très haut niveau demande des exigences maximales. Quand c'est sur un tournoi final comme une Coupe du Monde, encore plus.
Malgré ce revers, les Bleus restent dans l'élite de la Ligue des Nations après la défaite de l'Autriche. Un moindre mal, admet le sélectionneur, qui pense déjà au mois de novembre. Didier Deschamps annoncera alors sa liste de joueurs. Le patron des Bleus espère s'appuyer sur ses cadres au Qatar. Premier match prévu le 22 novembre prochain contre l'Australie.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Merci Christophe Lamarre. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 dans une dizaine de minutes. L'édito éco Nicolas Bouzou. Rien ne va plus au Royaume-Uni hein, où la livre est au plus bas, le coût de la dette au plus haut. Et puis dans un instant, on va parler de l'Italie avec Mathieu Souquier, expert associé à la fondation Jean Jaurès. A tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Large victoire ce matin donc pour la coalition dite de centre-droit, emmenée par les Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie, la formation de Giorgia Meloni. On va faire connaissance avec elle, son programme également. Bonjour Mathieu Souquer.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de 2022, La flambée populiste, c'est paru chez Plon. Alors d'abord les résultats, on va commencer par la participation. On est à 64,6%, c'est un recul assez important, hein, de 10 points par rapport aux dernières législatives il y a 4 ans, en 2018. On voit que les Fratelli d'Italia arrivent très nettement en tête, 26% des suffrages. La Ligue, 9%, Forza Italia, 8%. Voilà notre bloc de centre-droit qui fait 43% des suffrages. Loin, 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 loin devant son pendant de centre-gauche qui est à 19%. C'est ça, Mathieu Souquer.
On voit bien que les tendances, en fait, les tendances à l'œuvre sont les mêmes à peu près partout. Une droitisation des opinions. Et puis, ne nous trompons pas, on parle d'une coalition de centre-droit, mais c'est une coalition de centre-droit où l'extrême droite est très, très puissante, ultra puissante et même puissante comme jamais.
Qu'est-ce
et l'abstention
vous fait dire que...
qui, par ailleurs, oui. progresse effectivement dans toutes les grandes démocraties.
Je m'arrête un instant sur cette expression d'extrême droite, parce qu'elle est employée systématiquement pour qualifier cette coalition. Qu'est-ce qui vous fait dire, Mathieu Souquer, que c'est une coalition d'extrême droite,
hein? Alors, en l'occurrence, parce que les deux partis qui sortent en tête de cette coalition sont un nouveau parti, Fratelli dell'Italia, qui n'a que 10 années d'existence et qui était un groupuscule au départ, qui lors d'ailleurs des dernières élections en fait, n'avait fait qu'un score inférieur à 5% et qui là dépasse manifestement les 25%. Et alors encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il y a aujourd'hui un retour du fascisme en Italie, 100 ans après l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, mais c'est un parti dit post-fasciste, c'est un parti qui revendique l'héritage de ce qu'a été le MSI, oui. et qui d'ailleurs symboliquement en a gardé le logo, la flamme, qui rappelle précisément le fascisme. Alors même si encore une fois, Giorgia Meloni a dit que le fascisme appartenait à l'histoire, oui. elle n'a jamais caché l'admiration, la grande admiration que lui inspirait Benito Mussolini, et on sait qu'elle a gardé très longtemps des accointances avec les partis néofascistes, alors, les groupuscules néofascistes italiens.
Alors justement, bah éclairez-nous, qui sont les électeurs de Giorgia Meloni? Parce qu'on a des études qui nous montrent que c'est extrêmement composite, et puis vous nous éclairez aussi sur les grands clivages de la société italienne et bien voilà, les axes centraux du programme de Giorgia Meloni. Mais d'abord les électeurs, qui a voté pour Giorgia Meloni hier en Italie?
Alors, rappelons qu'encore une fois, il y a une vraie différence, par exemple, entre la Suède et l'Italie. La Suède a fait l'extrême droite a fait une percée en Suède il y a quelques jours, mais c'était un fait nouveau. Là, pour le coup, le score de l'extrême droite n'est pas un fait nouveau. Et l'extrême droite en Italie a déjà été au pouvoir avec la Ligue de Matteo Salvini. Mais quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Italie, il y a quelques années, c'était dans le cadre d'une coalition très différente, d'une coalition de populistes avec le mouvement 5 étoiles. Donc on pouvait dire qu'il y avait des populistes de droite avec déjà la Ligue et puis des populistes de gauche avec 5 étoiles.
5 étoiles qui passent de 32 à 16%.
Absolument,
hein, division
l'extrême
par deux
droite
de leur base
est en passe de revenir au pouvoir, mais dans le cadre d'une coalition différente, cette fois d'une coalition des droites et avec précisément un rapport de force interne à l'extrême droite tout à fait différent, puisque là où la Ligue était devant ses partenaires il y a 5 ans, c'est désormais effectivement le petit parti de Giorgia Meloni qui devient le grand parti de cette coalition.
Alors, je vais citer quelques-unes des choses qu'elle a pu dire ces derniers temps. Au début du mois de septembre, elle dit avec moi, attention, en Europe, ça va changer, donc elle souffle le froid. Quelques jours plus tard, elle dit, malgré tout, non, il faudra qu'on travaille ensemble. Vis-à-vis de l'Ukraine, elle dit que nous ne soutenions ou pas, finalement, ça ne change pas grand-chose pour eux. En revanche, pour nous, ça change tout. Donc, elle est clairement atlantiste, alliée des États-Unis, ça, elle le dit très, très clairement. Et elle dit rigueur sur la gestion des public, ça c'est très très important. Voilà, ça la classe quand même dans, on va dire, la grande famille de droite à peu près normale, alors, ces déclarations-là, Mathieu Souquer.
Les comparaisons sont toujours hasardeuses. Oui. Elle a un point commun avec Marine Le Pen, au-delà des points communs qu'il y a eu entre le MSI historiquement et le Front National lorsque Jean-Marie Le Pen l'a fondé. Elle a un point commun avec Marine Le Pen, c'est la dédiabolisation du discours de l'extrême droite et une forme de normalisation et même de notabilisation. Et en particulier sur les questions économiques, effectivement, Giorgia Meloni incarne, politiquement, je dirais qu'elle incarne et une forme de libéralisme et même d'ultra-libéralisme en matière économique et d'ultra-conservatisme en matière sociale. Et donc,
elle a quand même derrière elle des électeurs qui se disent à droite, mais qui sont demandeurs de plus d'égalité sociale, de redistribution, etc. Son électorat composite va être aussi un propre défi pour elle, parce qu'il y a des oppositions à l'intérieur même de son électorat.
Oui, absolument. Alors, je disais que les comparaisons étaient toujours hasardeuses, et donc il n'est pas question de dire que Mme Meloni est à l'Italie, ce que Mme Le Pen est à la France. On pourrait dire qu'elle ressemble presque davantage au mouvement d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal Le Pen, avec encore une fois quand même le fil à plomb de son programme politique qui demeure la préférence nationale. Mmh. Voilà, ça c'est le cœur en fait de son programme, et c'est le cœur de tous les programmes de tous les partis nationalistes européens. Ouais. Ensuite, il est vrai qu'en matière économique en particulier, et je dirais même que de ce point de vue-là, Mario Draghi a eu vis-à-vis de Giorgia Meloni des propos presque rassurants. Elle a cherché à rassurer tout le monde.
Oui.
Et d'ailleurs, elle a annoncé qu'elle ne sortirait ni de l'Europe, ni de l'euro, oui, ni de l'OTAN, ce qui rend précisément sa figure respectable aux yeux d'une partie de l'opinion, et en particulier des milieux économiques qui, depuis quelques semaines, font passer des signaux sur le fait que l'arrivée de Giorgia Meloni ne serait pas une catastrophe économique pour l'Italie.
On dit qu'elle voit, qu'elle a rencontré à plusieurs reprises Mario Draghi. Celui-ci lui aurait présenté Fabio Panetta. Il est membre de la Banque Centrale Européenne et elle songerait à faire de lui son ministre de l'économie. Quel gâche quand même au monde des affaires, là. Je veux dire, pour ceux qui disaient attention, le bras de fer énorme qui va se nouer entre Bruxelles et Rome, là, on n'y est pas du tout. Là.
On verra effectivement quelle forme la coalition prend et qui est nommé au gouvernement. Mais encore une fois, en matière économique, personne n'a de grandes inquiétudes.
Oui, bon.
C'est la droite libérale, oui, classique, qui devrait gouverner.
Bon, mais avec un plan de relance à 191 milliards d'euros aussi en jeu. Hein,
oui, et d'ailleurs, le slogan qu'a beaucoup utilisé Giorgia Meloni pendant sa campagne, la fête est finie, laissant entendre que précisément l'Italie pourrait être une des vaches à lait de l'Europe et que ce temps-là était révolu. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. L'Italie a précisément été un des pays européens les plus frappés par la crise sanitaire et la crise économique derrière. Et donc l'Italie est le premier bénéficiaire du plan de relance européen en réalité.
Il y a quelque chose qui est revenu beaucoup dans la bouche de Giorgia Meloni. L'Italie doit être respectée, doit être davantage respectée par l'Europe, par la France aussi également.
Alors, comme je le disais à l'instant, en tout cas, l'Italie a été beaucoup aidée par l'Europe. Ouais. Et par ailleurs, les relations entre Mario Draghi et Emmanuel Macron ont été tout à fait bonne. La France et l'Italie ayant décidé de redevenir des partenaires privilégiés, un partenariat privilégié sanctionné par un traité qui a été très vite signé, le traité du Quirinal. Donc on ne pouvait pas dire que les relations entre l'Italie et la France en particulier étaient mauvaises. Elles étaient au contraire bonnes et plutôt meilleures qu'elles ne l'avaient jamais été.
Merci Mathieu Souquière d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Votre dernier ouvrage 2022, La flambée populiste, s'est paru chez Plon. Bonne journée à vous. 7h20.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito Éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Alors évidemment, on parle beaucoup de l'Italie ce matin. Oui. Il y a du mouvement au Royaume-Uni également.
Ouais, du mouvement à tel point que certains observateurs craignent que le Royaume-Uni ne doive refaire appel à l'aide du FMI. C'était arrivé en 1976, suite à un enchaînement d'ailleurs pas très différent de celui d'aujourd'hui. Choc pétrolier, inflation, grève, défiance des marchés. Alors vendredi dernier, la livre sterling a chuté à son plus bas niveau contre le dollar depuis 37 ans. Cette chute, évidemment, elle va augmenter le prix des importations et elle va alimenter l'inflation. Les taux d'intérêt à 10 ans ont passé la barre des 4%, c'est plus que les taux américains, ce qui est très rare. Ce qui inquiète les marchés, c'est le stimulus fiscal présenté par le nouveau ministre de l'économie, le chancelier, comme on dit là-bas, Xavier Kvartend. Il prévoit des baisses d'impôts de l'ordre de 45 milliards de livres, ça représente à peu près 50 milliards d'euros. C'est un allègement fiscal nettement supérieur à ce qu'avait fait Margaret Thatcher, par exemple, pendant son mandat.
Mais alors, pardonnez-moi Nicolas, mais les baisses d'impôts, généralement, on dit que c'est bon pour l'économie.
C'est bon pour l'économie. D'ailleurs, l'objectif du gouvernement britannique, c'est d'amener la croissance de 0 à 2,5%. Alors, il y a des mesures sociales dans ce pacte fiscal, comme l'introduction d'un bouclier tarifaire. Ceci dit, les politiques et la presse, surtout à gauche, dénoncent une guerre de classe, parce que les baisses d'impôts concernent en grande partie les personnes les plus riches. Quelqu'un qui gagne 1 million de livres par an, par exemple, donc un petit peu plus d'1 million d'euros, verra sa fiscalité diminuer de 55 000 livres. Bon, pas rien. Le taux marginal d'impôt sur le revenu doit diminuer. Le plan prévoit aussi la suppression du plafond sur les bonus des banquiers.
Ouais. Ce ne sont pas les critiques de la presse, Nicolas, qui déclenchent une panique sur les marchés.
Non, en fait, le problème est double. D'une part, ces baisses d'impôts ne sont pas du tout financées. C'est d'ailleurs parfaitement assumé par le ministre, qui fait passer les questions budgétaires au second plan. C'est uniquement financé par la dette, alors même que les taux d'intérêt augmentent déjà. En fait, ce que craignent les marchés, c'est l'effet boule de neige, où la hausse des taux d'intérêt augmente le poids de la dette, ce qui alimente la défiance et ce qui génère de nouvelles hausses de taux d'intérêt, et ainsi de suite. Et puis, deuxième facteur, il ne vous aura pas échappé, Dimitri, que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne et donc le pays ne bénéficie plus d'aucun mécanisme de mutualisation ou de solidarité européen. Le paradoxe et la leçon de cette histoire, c'est qu'en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni a perdu une partie de son indépendance économique, il a perdu une partie de sa souveraineté.
Ouais, très intéressant. Tiens, je signale le 10 ans italien, l'emprunt à 10 ans italien, il est à 4,3% en baisse depuis hier, donc il n'y a pas encore d'attaque spéculative ou d'inquiétude de marché.
Absolument.
Pour l'Italie. Merci beaucoup.
Merci,
Nicolas
Bouzou.
À demain. 7h23.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
Que retenir de l'actualité? L'essentiel avec Alban Le Prince.
Nous gouvernerons pour tous les Italiens. Giorgia Meloni, à la tête du parti ultra-conservateur Fratelli d'Italia, revendique la victoire des élections législatives qui ont eu lieu hier. Selon les premiers sondages à la sortie des urnes, elle obtiendrait un quart des suffrages. Conseil des ministres chargé. Aujourd'hui, le gouvernement a rendez-vous à 10h à l'Elysée. Au menu des discussions, le financement de la sécurité sociale, le budget 2023 et le projet de loi sur les énergies renouvelables. Et puis Julien Bayou annonce ce matin abandonner ses fonctions de secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. Il déclare aussi qu'il officialisera aujourd'hui sa démission de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée. Pour rappel, Julien Bayou est accusé de violence psychologique par une ex-compagne.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Début octobre, Emmanuel Macron va lancer une consultation citoyenne sur la fin de vie. Le débat avait véritablement émergé, souvenez-vous, c'était il y a 19 ans, à la suite d'un dramatique événement. Bonjour Céline Géraud.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Le 26 septembre 2003, le décès du jeune Vincent Imbert provoque une énorme onde de choc dans le pays. Et deux jours plus tôt, sa mère lui injecte une forte dose de barbiturique. Elle n'a pas choisi cette date au hasard.
Effectivement, Marie Imbert passe à l'acte 3 ans, jour pour jour, après l'accident de la route qui a plongé son fils de 19 ans dans un état désespéré. Vincent est tétraplégique, aveugle et muet, mais avec toutes ses capacités intellectuelles. Et malgré les séances de rééducation au centre héliomarin de Berck-sur-Mer, les médecins ne lui laissent aucun espoir d'amélioration. 48 heures avant de mettre fin au jour de son garçon, Marie Imbert se confie en exclusivité sur notre antenne au micro de Marc Messier.
Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est insoutenable au départ. Une mère, elle peut pas, on se dit non, non. Il faut comprendre que Vincent m'a tellement expliqué les choses en me disant « tu m'as mis au monde par amour et je ne vois pas pourquoi tu pourrais pas me tuer par amour. Ou alors si tu veux pas m'aider, c'est que tu ne m'aimes pas. »
Ce droit de mourir, 9 mois plus tôt, Vincent Imbert l'avait demandé au président de la République Jacques Chirac, comme le raconte notre reporter Guillaume Porteux pour Europe 1.
Cette lettre, Vincent en a eu l'idée seul, immobile sur son lit d'hôpital. Grâce à son pouce, la seule partie de son corps qu'il parvient à bouger, Vincent a dicté le texte à une éducatrice. Vous êtes ma dernière chance, vous avez le droit de grâce, moi je vous demande le droit de mourir, dit ainsi le jeune homme à Jacques Chirac.
Mais Jacques Chirac lui oppose une fin de non-recevoir et Vincent décide alors de s'en remettre à sa mère pour en finir avec la vie.
Et le jour même du décès de Vincent Imbert, Céline, les députés ouvrent une mission d'information sur l'accompagnement de fin de vie.
Oui, et ces débats ont une résonance toute particulière pour le médecin Bernard Kouchner. 6 mois plus tôt, l'ancien ministre de la Santé vient de faire adopter une loi qui porte son nom sur le droit des malades. Et le jour de la mort de Vincent Imbert, il est interrogé sur la fin de vie par Jean-Pierre Elkabbach.
Je souhaiterais qu'on se passe d'une loi, mais ça n'est peut-être pas possible. Je me suis peut-être trompé. Je crois qu'il faut quand même que l'on ouvre les yeux et qu'avant de mourir, on soit une fois adulte. Mais à la fin, la question se pose, à qui appartient la vie ?
Et ce n'est que 19 mois plus tard, le 22 avril 2005, que la première véritable loi sur le sujet est promulguée, la loi Leonetti, qui interdit l'acharnement thérapeutique sans toutefois légaliser l'euthanasie.
Merci beaucoup Céline Géraud. Allez, bon réveil, bon courage en ce lundi matin. Europe 1 vous accompagne en douceur. Dans le prochain journal, nous irons dans le Morbihan. On va vous expliquer pourquoi Belle-Île-en-Mer ne veut surtout pas qu'on parle de son sentier de grande randonnée. A tout de suite.
Europe 1.
Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est ce qu'on appelle une ascension fulgurante. 4% des voix en 2018 et presque 6 fois plus hier, estimation provisoire accordée au parti d'extrême droite Fratelli d'Italia qui revendique la première place aux élections législatives.
Nous gouvernerons pour tous les Italiens. Ça, c'est la première promesse de Giorgia Meloni, la patronne du parti qui pourrait devenir la prochaine présidente du Conseil.
La coalition des droites décrocherait au total près de 40% des voix et la majorité absolue des sièges au Parlement. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Comment ont réagi les habitants à l'annonce de ces premiers chiffres ?
Alors soyons honnêtes, la majorité des Italiens découvrent les résultats en se réveillant ce matin. Beaucoup sont allés dormir avant même que soient connues les premières estimations fiables tombées au milieu de la nuit. Sonia, elle, était aux côtés de Giorgia Meloni.
C'est merveilleux aujourd'hui.
C'est un moment heureux,
vraiment très heureux. L'Italie a enfin retrouvé une colonne vertébrale.
Ce retraité aurait préféré un autre résultat, mais s'incline.
En démocratie, c'est celui qui remporte le plus de voix qui gagne. Personnellement, je suis de gauche. Mais si c'est une force de droite qui gagne, il n'y aurait rien de mal. C'est la démocratie. Je suis absolument tranquille.
Mais beaucoup d'Italiens n'oublient pas les racines du parti Fratelli d'Italia.
Je dirais que oui, la préoccupation existe au moins pour une partie de la population. On peut associer la Meloni à une certaine droite, donc au fascisme. On espère qu'elle maintienne un certain européisme, qu'on ne tente pas vers ces pays qui sont contre l'Europe, ou du moins qui menace une situation de paix européenne.
En ligne de mire, les relations qu'entretient Giorgia Meloni avec les dirigeants de la Pologne et de la Hongrie.
Frédéric Michel.
Bonjour Jacques Soret.
Bonjour.
Jacques, on attend encore les résultats définitifs, mais déjà ce triomphe de l'extrême droite pourrait bien refroidir les relations entre Rome et Paris.
Oui, Giorgia Meloni n'était clairement pas la candidate d'Emmanuel Macron. Alors bien évidemment, le président français s'était gardé de faire tout commentaire avant l'élection. Mais ses lieutenants, comme Stéphane Séjourné, avaient appelé à voter contre elle. Avec Meloni, nous craignons une Italie alignée avec la Hongrie de Viktor Orban, expliqué il y a 3 jours le secrétaire général du parti Renaissance. Il faut dire qu'Emmanuel Macron était très proche de l'ancien Premier ministre Mario Draghi. Les deux hommes s'appréciaient réciproquement. Et depuis un an et demi, Paris et Rome vivaient une lune de miel diplomatique. La France faisant de l'Italie un partenaire majeur au même titre que l'Allemagne. Avec cette élection, Emmanuel Macron perd donc son principal allié et se retrouve à la place face à une personnalité qui n'a eu de cesse de critiquer la France, notamment sur la question de l'immigration africaine en Europe. Un chamboulement dans la relation bilatérale, mais aussi un tremblement de terre à l'échelle de l'Union européenne. À Bruxelles, Emmanuel Macron perd un appui de taille et va se retrouver à devoir traiter avec un nouveau voisin eurosceptique.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1, les élections italiennes qui seront sûrement commentées dans les couloir du Conseil des ministres. Sur la table du gouvernement, 2 textes majeurs, le budget 2023 et le financement de la sécurité sociale. A priori, sans amendement à ce stade sur la réforme des retraites. 6h34 sur Europe 1. La pression... 7h34 sur Europe 1. La pression était visiblement trop forte. Julien Bayou ne sera plus le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Le patron du parti va démissionner. Il l'annonce ce matin dans un communiqué. Julien Bayou évoque, je cite, une situation intenable après notamment le signalement d'une ex-compagne auprès de la cellule de son parti dédiée aux violences sexuelles et sexistes.
18%, presque un élève en situation de handicap sur 5 ne peut pas aller à l'école. Chiffre de l'UNAPI, c'est l'une des associations représentant les familles des enfants handicapés.
Oui, et le problème, c'est le manque d'AESH, 4 lettres pour ces hommes et femmes qui accompagnent ces élèves handicapés en classe. Une pénurie confirmée par la défenseure des droits qui pointe un statut précaire où le salaire dépasse rarement le SMIC. C'est d'ailleurs le quotidien de Ludivine Meunier, AESH dans un lycée parisien. Des journées au pas de course que Louis Salé a tenté de suivre pour Europe 1.
Il est 8h30, la sonnerie retentit et c'est la course pour Ludivine. Cheveux orange, lunettes rondes et chemise à fleurs, on la repère de loin. Elle gambade dans les couloirs de classe en classe.
C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie.
Après un cours de géographie de 2 heures en seconde aux côtés de Timmy,
de faire tout le tour de l'Afrique,
c'est au tour de Caïs et d'Akane, de terminale, de bénéficier de son aide en maths pendant 1 heure.
Puissance 7, calcule ça à la calculatrice.
Elle suit dans chaque classe au moins 2 enfants. Les élèves en demande d'AESH sont en nette augmentation.
Plus on en parle, plus c'est connu. plus c'est connu, plus c'est banalisé. Donc déjà, les professeurs en détectent de plus en plus parce qu'ils sont plus sensibilisés. Et de là, bah, les familles, comme c'est beaucoup moins stigmatisant puisque c'est beaucoup plus répandu, font aussi les démarches derrière.
Pour Laurence, prof d'anglais, la présence de Ludivine est indispensable.
Je n'ai pas le temps, sur une heure de cours, de faire du cas par cas. Donc je les prends tels qu'ils sont. Et ensuite, on dépoussière, on décortique et on fait connaissance avec l'élève.
Le seul problème de Ludivine, ne pas pouvoir se dédoubler. Elles étaient 4 AESH l'année dernière dans ce lycée. Elles ne sont plus que 2.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas couvrir déjà tous les enfants. Il y en a 4 qui se retrouvent sans accompagnement quand même.
Pour elle, il y a une explication.
Il y a une vraie précarité. On a un premier contrat de 3 ans, un CD de 3 ans, renouvelable une fois avant d'être CDIsé.
Son contrat est régulièrement modifié. Elle pourrait toucher moins que le SMIC le mois prochain.
Le reportage de Louise Salé. A noté que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a annoncé la création de 4000 postes supplémentaires d'AESH pour cette année.
Allez, à la page tourisme, c'est ce qui pourrait s'appeler un cadeau empoisonné.
Oui, on parle du titre de circuit de randonnée préféré des Français. Il a été attribué au Tour de Belle-Île-en-Mer cette année. 85 km de sentiers magnifiques, bordés de criques splendides. Le revers de la médaille, c'est la surfréquentation touristique, plus 25% cet été.
Voilà, un coup de projecteur qui inquiète les élus du territoire. La communauté de communes a décidé de refuser le trophée au grand regret de la Fédération des randonneurs sur l'île. Deux camps s'affrontent, Alexandra Gégy.
Oui, c'est une véritable omerta face à cette décision. 4 jours pour enquêter, quand j'appelle la mairie, pas de réponse. Même chose à la communauté de communes et les associations de défense de l'environnement disent ne pas pouvoir communiquer. La première à s'exprimer, c'est Nicole Lenoble de l'association Savoir-faire des îles du Ponant. Elle comprend cette décision visant par ricochet à contrôler la fréquentation du sentier.
Il y a un manque de respect énorme au niveau des randonneurs. Quand on va se promener, il y a des papiers toilettes partout, c'est sale.
Alors, présenter les randonneurs comme pollueurs et trop nombreux ne passe pas auprès de Madeleine Lebranchu, présidente de la Fédération Morbihanaise de randonnée. Pour elle, il faut chercher les responsables du surtourisme ailleurs.
Notre sport, c'est le souci de préserver, de ne pas déranger. Mais est-ce que tous les touristes qui viennent à Belle-Île sont des randonneurs? On peut peut-être s'interroger.
Alors, interrogeons-nous. Des refus de parler et des réponses sibyllines. Et en sous-texte, peut-être simplement une évolution du monde du tourisme qu'évoque Audrey, vendeuse de glace sur l'île depuis 7 ans.
Il n'y a pas que des randonneurs qui viennent à Belle-Île. On voit des Tesla, des Porsche, on en voit de plus en plus. Ce ne sont pas les mêmes porte-monnaies qui viennent à Belle-Île en mer qu'avant, quoi.
Est-il question de bons ou de mauvais touristes sur l'île? Le débat est donc lancé, mais pour le moment, aucune mesure n'est prise pour réguler la fréquentation.
Alexandra Gégy est de Belle-Île en mer. On passe à une autre île tout aussi magnifique, la Barbade dans les Caraïbes, où c'est certain, hein, on ne manquera pas la prochaine finale du Super Bowl. On est obligé de bouger les épaules quand on écoute Rihanna Umbrella. Je crois en plus que ça colle avec la météo, qui est donc originaire de la Barbade.
Eh bien,
elle sera de retour sur scène pour la mi-temps du Super Bowl. C'est en février aux États-Unis, l'événement le plus regardé dans le pays. Alors on l'a appris cette nuit. Elle faisait rare sur scène, donc c'est important de noter.
Elle se faisait rare, Rihanna. Merci Romane, on vous retrouve tout à l'heure, vous à 9h. Vous n'êtes pas si rare que ça sur l'antenne d'Europe 1, heureusement. Dans un instant, restez avec nous. Tiens, il y a cette petite phrase ce week-end, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Si les choses vont dans une direction difficile, elle a des instruments. Elle parlait de l'Italie. Tiens, premier clash avec Giorgia Meloni qui vient de remporter les élections législatives en Italie. Vincent Hervouette décrypte, raconte dans un instant.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
7h43, lui ne démissionnera pas de son magistère littéraire. C'est Nicolas Carreau pour le livre du jour dans un instant. Bonjour Nicolas, c'est Franck Bouys ce matin. Hein.
Absolument, l'homme peuplé.
J'aime bien Franck Bouys.
C'est beau, mais qui fait un peu peur.
Voilà, et série avec Héloïse Goua comme tous les lundis. Bonjour Héloïse.
Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde.
C'est Florence Foresti.
C'est ça, la toute première série qu'elle réalise et qui arrive sur Canal+.
Voilà, elle est partout, nouveau spectacle, nouvelle série. Vous nous racontez ça dans un instant. Mais d'abord, Vincent Hervouette, bonjour.
Bonjour Dimitri.
L'édito international sur Europe 1, l'Europe est-elle inquiète de la victoire de Giorgia Meloni?
Il convient de prendre un air soucieux quand on en parle, et même de se boucher le nez. C'est du chiquet. Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans que l'Europe crie au loup. Dès qu'un souverainiste est élu, à force ça ne marche plus. Un bon tiers des pays européens a déjà voté pour la droite ultra ou pour des dirigeants soutenus par des partis populistes de droite. À l'échelle européenne, ça n'a rien changé. À Bruxelles ce matin, il n'y a pas de cellule de crise, juste des conversations dans la machine à café.
Alors Giorgia Meloni, elle dit que la fête est finie et que l'Italie défendra désormais ses intérêts nationaux.
La fête est finie depuis que Mario Draghi est tombé. L'ancien patron de la Banque Centrale Européenne était du Sérail. Mario Conti aussi, commissaire européen pendant 10 ans. Giorgia Meloni n'est pas membre de la commission trilatérale ou du groupe Bilderberg. Ce n'est pas une techno. Elle a fait ses classes en collant des affiches à 15 ans, élue à 20 ans, ministre à 30, présidente à 45 donc. Les eurocrates parient qu'elle va baisser d'un ton maintenant qu'elle est élue. Au prochain Conseil, les autres dirigeants européens vont la féliciter, lui faire une place au sein du club et, si nécessaire, lui en expliquer les règles. Comme l'a dit Ursula von der Leyen, avec son ton inimitable de maîtresse d'école en fin de trimestre, il ne peut pas y avoir un pays qui vient dire « je veux, je veux ». Autrement dit, Margaret Thatcher est morte et personne ne va la remplacer, même pas une Italienne qui est comme elle la première femme à devenir Premier ministre de son pays, qui affiche les mêmes valeurs traditionnelles et le même scepticisme radical vis-à-vis du fonctionnement européen. Giorgia Meloni a quand même mis de l'eau dans son vin, dans son Chianti. Son programme est favorable à plus d'intégration politique en Europe. L'Italie a besoin des 200 milliards du plan de relance européen. Ouais. Et puis elle est totalement alignée sur l'OTAN face au Kremlin.
Alors Ursula von der Leyen, elle a quand même mis en garde les Italiens à la veille du scrutin. C'est important, cette chronologie.
Oui, elle était à Princeton, elle parlait de la Hongrie et de la Pologne, mais elle répondait à une question sur l'Italie et elle a dit « si les choses tournent mal, nous avons les outils ». C'est le retour d'Uschi la pétoire, comme l'appelaient les Allemands à l'époque où elle était ministre de cette armée désarmée qu'est la Bundeswehr. Elle ne se contente pas, Uschi la pétoire, d'inciter à voter comme il faut. Elle brandit le knout sous le nez de ses écervelés d'Italiens. Ce n'est plus de l'ingérence mais de l'arrogance, à l'évidence contre-productif. Ça ne peut que renforcer le sentiment anti-élite européenne des Italiens qui ont vu leur salaire diminuer depuis 30 ans, leur facture d'électricité multipliée par 4 ces derniers mois et qui considèrent en général que l'Europe les condamne à l'impuissance face à la marée sans cesse recommencée des migrants sur les plages de Lampedusa. Quand elle avait 3 ans, Giorgia Meloni a mis le feu à l'appartement familial. Mmh. En Europe aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen, l'incendiaire.
Tiens, très intéressant. Elle a eu cette phrase pendant la campagne, Giorgia Meloni. Nous ne voulons pas d'une Europe de première et deuxième division. Voilà. Le thème européen, c'est au cœur justement du programme de Fratelli d'Italia, de la coalition de droite. On aura l'occasion de lever le capot, de regarder ce qu'il y a dans ce programme tout à l'heure à 8h40. Merci beaucoup Vincent Hervouette.
Europe Matin.
Mais d'abord, un bon bouquin, Nicolas Carreau. Ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de Franck Bouys, avec un
oui,
Y. Oui,
Franck Bouys, Né d'aucune femme, Grossir le ciel, l'auteur corrézien revient avec L'homme peuplé chez Albin Michel.
L'homme peuplé, c'est-à-dire
Je suis désolé de citer des poètes dès le matin, mais c'est un peu ce que disait Walt Whitman, le poète américain. I contain multitude, je contiens la multitude. Sous-entendu, en chacun de nous vivent différentes facettes, différentes histoires et finalement une foule. C'est un peu l'idée de ce roman qui commence avec l'arrivée d'Harry, un romancier à succès dans un petit hameau au milieu de l'hiver. Sa maison est vétuste, il fait froid, il s'endort en se roulant en boule dans la cuisine à côté d'un vieux radiateur.
Mais que fait-il là ?
En fait, il vient d'acheter cette ferme sur un coup de tête. Il est parti pour retrouver un sens à ce qu'il écrit. Alors il débarque dans cette maison, mais dans son jus, vraiment. La vieille dame qui vivait là est morte il n'y a pas très longtemps. Le lit est juste défait, comme si elle venait d'en sortir. Les pantoufles sont encore là. C'est un peu glauque comme ambiance, mais il veut sortir du monde pour réfléchir. Il en a marre d'écrire ses petits romans sympathiques, bien conventionnel, il voudrait créer une œuvre, une vraie, il se met dans les conditions. Franck Bouys.
C'est exactement ça, c'est qu'on peut facilement succomber aux sirènes de ce qu'il appelle, lui, la tentation du manufacturier, c'est-à-dire de fabriquer des meubles Ikea, fabriquer des livres avec un début, un milieu, une fin. Et lui, il a mis la barre de la littérature assez haute, mais il a conscience aussi que la littérature ne peut pas se révolutionner. Donc c'est très, très compliqué, en fait. Il sait plus trop où il en est. Il a eu la malchance et la chance en même temps d'avoir un immense succès avec ce premier livre. C'est un peu le problème.
C'est un roman qui parle de littérature, en fait.
Alors oui, mais pas seulement. Il a un voisin, Harry, Caleb, un type très très étrange, moitié sourcier, moitié guérisseur. Quand on le suit, ce Caleb, on assiste à des flashbacks avec sa mère qui entretient avec lui une relation pas très très saine. Il y a Sophia aussi qui tient l'épicerie et un chien qui s'appelle juste Le Chien. Et des choses inquiétantes qui surviennent tout le temps, tout ça sur fond de neige et de froid. C'est du Franck Bouys, je peux pas dire mieux. C'est un mélange de thriller, de suspense, de réflexion et d'atmosphère. Très important l'atmosphère chez Franck Bouys.
Je gomme la végétation, il reste plus que ces deux humains et ce chien, voilà. En faisant éclater la chronologie également, et le lecteur attentif s'apercevra que le brouillard est très important. Il fait passer d'une dimension à une autre, de la dimension de Caleb à la dimension de Harry. L'atmosphère, évidemment, est primordiale, oui, primordiale.
Voilà, donc, à lire avec une écharpe autour du cou.
Exactement, donc. Et très attentif.
L'homme peuplé, signé Frank Bouys. Ça rappelle un peu Misery, je trouve. Il y a quelque chose
de... C'est un petit peu différent, mais il y a quelque chose de cette ambiance-là.
Voilà,
oui.
Pour la hache en moins, en tout cas, je l'espère pour notre auteur. Merci. Toi, merci Nicolas. Allez, au programme aujourd'hui, Héloïse Gouas. Une série réalisée par l'une des humoristes préférées des Françaises, même la star.
Ah oui, c'est une série très attendue parce qu'il s'agit de la toute première écrite et réalisée par Florence Foresti. Ça s'appelle Désordre, au pluriel. Et ces désordres sont à l'image de la vie pas toujours rose de Florence Foresti qu'elle met en scène. C'est bien sûr elle qui tient le rôle principal pour nous parler de l'approche de la cinquantaine, du célibat, de la célébrité, de ses angoisses quotidiennes. Alors sans surprise, tout ça est raconté de manière très drôle, avec beaucoup d'autodérision, notamment quand il s'agit d'évoquer la concurrence qui existe entre les actrices et les humoristes femmes. Dans cet extrait, Audrey Lamy remet un prix d'honneur à Florence Foresti pour l'ensemble de sa carrière.
Depuis 20 ans d'une carrière sans nuages, elle a tenu son cap. Sans céder aux nouvelles modes, elle a gardé ses thèmes phares, toujours les mêmes. Ce soir, je voudrais que on lui dise merci. On t'oubliera jamais.
Voilà, ça ressemble plus à un hommage à une personne décédée.
Hein.
Pour ceux qui suivent déjà Florence Foresti sur les réseaux sociaux, vous reconnaîtrez aussi son chien Bernie, un gros bulldog français qui prend la parole dès qu'il en a l'occasion.
Eh hey Bernie, on peut dire qu'elle est sympa, maman. Hein.
Elle est sympa, mais jamais tu ne posséderas cette femme. Je suis la seule perruque de cette baraque et je compte bien rester mon petit pote.
Bon, Bernie Pascal n'a aucune intention de me posséder. Il monte un meuble, là. Quel rapport ?
Le chien parle, donc.
Absolument.
C'est Florence Foresti qui fait le chien,
évidemment.
J'imagine.
Ouais. Alors, c'est pas la première humoriste qui met sa vie en scène dans une série. Hein. L'année dernière, Blanche Gardin avait réalisé La meilleure version de moi-même. C'était une série dans laquelle elle montrait son quotidien dans un vrai faux documentaire hilarant.
Alors justement, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette série ?
Eh bien, cette série est drôle, mais pas que. Florence Foresti n'hésite pas à prendre à bras-le-corps des sujets graves comme ses tendances dépressives qui lui gâchent la vie. Et cette dépression, ses angoisses, sont très joliment incarnées et représentées par un homme qui l'accompagne presque tous les jours pour lui ôter le peu de confiance en elle qu'il lui reste. C'est souvent très émouvant. Alors la citation « L'humour et la politesse du désespoir » de Chris Marker prend tout son sens dans cette série originale et surprenante qui vous réserve beaucoup de surprises.
Alors c'est à voir où et quand ?
La série sera diffusée lundi prochain, le 3 octobre, sur Canal+, à 21h. Le premier épisode sera diffusé en clair. Et en tout, c'est 8 épisodes de 30 minutes.
Voilà, désordre au pluriel avec Florence Foresti qui monte un spectacle qui s'appelle Boys, 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 dans lequel elle dit « Ils sont pas bien les garçons en ce moment. Hein. »
C'est ça, ce sera au Théâtre Marigny, Boys, Boys, Boys.
Interview ahurissante à lire dans le journal Le Monde d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Merci Héloïse Gouas, merci Nicolas.
Merci.
Merci Vincent, à demain, 7h51.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent Alban Le Prince.
Elle promet de gouverner pour tous les Italiens. L'ultra-conservatrice Giorgia Meloni revendique la victoire des législatives italiennes qui ont eu lieu hier. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais son parti Fratelli d'Italia passerait de 4,3% des voix il y a 4 ans à près de 25% aujourd'hui. Washington dit stop. Les États-Unis ont demandé à la Russie de mettre fin aux menaces nucléaires. Les conséquences seraient horribles et nous avons été très clair à ce sujet, déclare le chef de la diplomatie, Anthony Blinken. Et puis le gouvernement présente aujourd'hui en Conseil des ministres le budget 2023 et celui de la sécurité sociale. Autre projet de loi présenté ce matin, celui sur les énergies renouvelables.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémolet de Villers.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro. Alors ce matin, c'est le vrai Conseil des ministres de rentrée avec sur la table le projet de loi de finances pour 2023. Le gouvernement veut montrer qu'il est en ordre de bataille et que la puissance réformatrice d'Emmanuel Macron n'est en rien entamée.
Et oui, et que le président de la République se rassure, personne ne pense qu'il ne fait rien. Le mois de septembre n'est même pas encore achevé, on en a déjà le tournis. D'autant qu'à entendre le gouvernement, tout est urgent. Tout est prioritaire. L'assurance chômage et l'immigration, la fin de vie et la réforme des retraites, les énergies renouvelables et le nucléaire, la justice et la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école, la police et le plan vélo. Alors quand on voit tout ça, on se dit que nos ministres sont dotés de super pouvoirs, qu'Emmanuel Macron finalement c'est réformateur. Le problème, c'est que quand s'arrête le tourbillon de communication, c'est une toute autre histoire. D'un coup, on a l'impression d'être face à deux réalités parallèles. La première, c'est celle de nos vies quotidiennes, la vôtre, Dimitri, la mienne, celle de nos auditeurs. L'autre est faite de chiffres, de rapports, d'audits, de projets. C'est celle d'un agenda qui a tout d'une fuite en avant managériale et sociétale, selon les mots très justes de l'excellent Jean-Pierre Le Goff. C'est à lire dans le Figaro ce matin.
Alors, on ne peut pas reprocher, Vincent, à Emmanuel Macron de ne pas réformer, puis de trop réformer.
Mais ce n'est pas un reproche, c'est un simple constat. Et Macron, dans ce constat, n'est pas plus coupable que ses prédécesseurs. Ce qui est stupéfiant, Dimitri, c'est le gouffre qui sépare désormais le discours officiel et la performance publique. D'un côté, on a un activisme en image du président et de nos ministres, et de l'autre, un sentiment de déclassement et de dépossession grandissant dans la population. Et ce n'est pas qu'un sentiment. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Il faut parfois des heures à un malade sur un brancard avant qu'il obtienne la première information. Si vous êtes victime d'une fraude bancaire, il vous faudra des jours, et l'aide d'un coach peut-être, pour parvenir à porter plainte. Vous voulez refaire votre carte d'identité. Il vous faudra des mois avant d'obtenir le précieux document, des mois. Je ne vous parle pas des trains que l'on supprime, des guichets introuvables et du maquis des normes et des règlements dans lesquels même Kafka s'est perdu. Finalement, il reste un service de l'État qui fonctionne, c'est celui de l'impôt. Ça, c'est un truc qui marche très bien, l'impôt. Ah oui. Mais tous ces prélèvements, malgré leur importance, n'empêchent pas l'affaissement généralisé de nos services publics.
Et je pense que beaucoup d'auditeurs se seront reconnus dans ce que vous venez de dire. Puisque rien ne marche, Vincent, justement, il faut bien réformer.
Mais quand rien ne marche, il faut commencer à réparer avant de vouloir tout changer. Je ne pense pas qu'il faille un projet de loi pour chacune des défaillances que je viens de citer. On croule déjà sous les lois non appliquées, il n'est pas nécessaire d'en ajouter. Il faut quand même avoir en tête un chiffre. En 20 ans, le nombre d'articles législatifs et réglementaires en vigueur a augmenté de 50%. Le problème n'est pas le manque de lois. Il faudrait même en supprimer. Le problème central, c'est l'affaiblissement de l'État. Au fond, tant que l'État n'aura pas retrouvé son autorité, qui est la condition de son efficacité, on continuera à faire du surplace en faisant mine de réformer. Avant de vouloir améliorer les choses, Dimitri, il faudrait déjà s'assurer qu'elles fonctionnent.
Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Je signale la une du Figaro aujourd'hui, l'électricité, ces restrictions qui inquiètent les Français.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Tiens, à propos de réforme, celle des retraites, faut-il la faire? Va-t-il, lui, la laisser faire? Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est l'invité de Sonia Mabrouk juste après le journal de 8h. A tout de suite. Nous sommes le lundi 26 septembre, soyez les bienvenus.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Nous gouvernerons pour tous les Italiens. L'Italie a droit de tout à l'issue des législatives et l'engagement cette nuit de Giorgia Meloni, la patronne de la coalition de droite qui remporte les élections avec plus de 44% des suffrages. Les réactions en Italie dans un instant avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, Frédéric Michel. Julien Bayou, lui, jette l'éponge. Il démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il va également quitter la tête du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, conséquence des accusations de harcèlement moral contre sa compagne. Et puis, projet de loi de finances aujourd'hui en Conseil des ministres ce matin. La réforme des retraites à ce stade n'est pas au programme. Explication dans un instant. Et puis à 8h13, votre invité, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Des sujets brûlants ce matin, la poussée des droites en Italie, la réforme des retraites en France et la vie chère partout. À tout à l'heure.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un tsunami nommé Meloni. En Italie, les élections législatives ont livré leurs premiers résultats. La coalition ultra-conservatrice menée par Giorgia Meloni était créditée de plus de 44% des suffrages. Résultat partiel, mais la victoire ne fait plus aucun doute.
Nous pouvons dire que les Italiens, dans ces élections politiques, ont exprimé une indication claire. Une indication claire pour un gouvernement de centre-droit dirigé par les Frères d'Italie.
C'est donc elle, Giorgia Meloni, qui devrait être la prochaine chef du gouvernement, la première femme à occuper ce poste en Italie. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Le raz-de-marée Meloni, on l'imagine, est à la une de toute la presse italienne ce matin.
Évidemment, à la une de tous les journaux, la femme du jour, Giorgia Meloni, la stampa titre « L'Italie vire à droite » avec une photo en gros plan de la grande gagnante de ce scrutin, les mains devant la bouche, comme si elle allait adresser un baiser à ses électeurs. La Repubblica écrit « Meloni se prend l'Italie » et a ressorti une photo où on la voit de profil en noir et blanc, le visage fermé. Hanoï, à nous, titre Il Manifesto avec un cliché de Giorgia Meloni lors d'un de ses derniers meetings qui a le bras gauche un peu tendu et au poignet un bracelet aux couleurs de l'Italie. Meloni gagne majorité au centre droit pour le Corriere della Sera, qui prend un ton sportif ce matin.
Alors Frédéric, vous avez pu rencontrer hier soir Guido Crosetto. On ne le connaît pas en France, mais cet homme est un personnage important. C'est un proche de Giorgia Meloni. Il vous a parlé d'elle et de sa relation avec la France.
Oui, Guido Crosetto est un ancien démocrate chrétien, secrétaire d'État à la Défense sous Berlusconi. Il coordonne le parti Fratelli d'Italia. Il est l'un des mentors de Giorgia Meloni. Je lui ai demandé quel était le rapport qu'elle entretenait avec la France. Elle qui fut la plus jeune députée italienne, la plus jeune ministre et sans doute bientôt la première femme à diriger le pays.
Elle parle français,
elle connaît beaucoup la France et elle la respecte. C'est une femme déterminée, une femme très travailleuse, très sérieuse, qui tient sa parole. Et donc dans un rapport correct entre nations, elle sera un grand interlocuteur et une grande aide pour toute l'Europe.
Guido Crosetto, micro Europe 1 de Frédéric Michel, envoyé spécial en Italie. Merci Frédéric. Parmi les réactions françaises à cette victoire de Giorgia Meloni, celle de Marine Le Pen ce matin, qui la félicite d'avoir, je cite, « résisté aux menaces d'une Union européenne antidémocratique et arrogante ». Résultat d'élection tragique, en revanche, pour Clémentine Autain de la France Insoumise, qui dénonce la prise de pouvoir des héritiers de Mussolini.
Alors quel programme pour Giorgia Meloni et sa coalition? On en parlera avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Carole Barjon de l'Obs tout à l'heure à 8h40 dans le club de la presse européen. Pour l'heure, 8h03, retour en France et une démission surprise, celle de Julien Bayou. Il annonce quitter ses mandats de chef de groupe à l'Assemblée et de chef des Verts.
Oui, annonce surprise ce matin par communiqué avec quelques explications, Jacques Serret.
Oui, et des explications relativement brèves. Quelques lignes dans un communiqué de presse envoyé aux Aurores. 11 lignes, mais des phrases choc de la part de celui qui est désormais ex-secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs, accusatrices, disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles, explique Julien Bayou, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu'on refuse de m'entendre. Cette situation est intenable, poursuit-il. Julien Bayou concluant avec cette analyse, le contexte délétère semble empêcher tout discernement dans un moment où la société bascule et cherche le point d'équilibre pour cette si nécessaire révolution féministe. Conséquence, il démissionne de ses fonctions au parti et à la présidence de son groupe à l'Assemblée. Il conserve toutefois son mandat de député. Une annonce qui risque de faire tanguer Europe Écologie Les Verts et l'alliance de gauche dans l'hémicycle. Sa collègue Sandrine Rousseau en embuscade, c'est elle qui la semaine dernière avait dévoilé sur la place publique les accusations le visant.
Merci beaucoup Jacques Serret du service politique d'Europe 1 en direct avec nous.
Voilà un coup de tonnerre politique alors que l'exécutif s'apprête à présenter un projet de loi brûlant ce matin.
Le tout premier budget du quinquennat et le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont dévoilés en conseil des ministres dès 10h à l'Élysée. Dernière ligne droite avant que le texte n'arrive à l'Assemblée nationale. Et il y a une question qui agite l'opposition, celle évidemment de la réforme des retraites. L'exécutif va-t-il la faire passer par amendement comme il l'avait évoqué? Arthur Delaborde, pour le moment, ce n'est pas au programme.
Oui, la première mouture du budget de la sécurité sociale présentée ce matin ne devrait pas intégrer la réforme des retraites. Cependant, la piste d'un futur amendement n'est pas abandonnée. L'option reste sur la table, tout comme celle d'un texte spécifique en début d'année prochaine. Autrement dit, la question de la méthode n'a pas encore été tranchée. Pour savoir quelle formule sera retenue, il faudra donc patienter au moins jusqu'à mercredi. Un dîner consacré à la réforme des retraites est prévu autour du président, de la première ministre, de membres du gouvernement et de plusieurs poids lourds de la Macronie, dont François Bayrou. Objectif, ramener le calme dans la majorité alors que le patron du Modem a répété tout le week-end son opposition à un passage en force via un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Des prises de position dont Emmanuel Macron doit tenir compte, même s'il est déterminé à aller vite, confie un ministre. Et s'il n'a pas encore tranché sur la forme, le chef de l'État a déjà décidé sur le fond. La réforme des retraites doit être mise en œuvre à l'été 2023, martèle son entourage.
Arthur Delaborde. Alors l'une des mesures prévues dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est le déremboursement de certains arrêts maladie. Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, l'a annoncé hier dans le journal du dimanche. Sont concernés tous les arrêts délivrés en téléconsultation lorsque ceux-ci ne le sont pas par votre médecin traitant. Selon le gouvernement, cette pratique en vérité a explosé, Yasmine Akatou.
Oui, le gouvernement a constaté une explosion des arrêts maladie prescrits en téléconsultation par un professionnel autre que le médecin traitant. L'année dernière, ils ont coûté près de 100 millions d'euros à l'assurance maladie, selon Gabriel Attal. Alors, il ne s'agit pas à chaque fois d'arrêts maladie frauduleux, mais certains patients abuseraient du système grâce aux plateformes de consultation en ligne, dénonce Jean-Paul Hamon. Il est docteur et président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
quand vous pouvez choisir votre consultation comme vous voulez, qu'elle est remboursée, et qu'à la fin de votre consultation, vous n'obtenez pas l'arrêt de travail, eh ben, vous prenez un nouveau rendez-vous avec un autre médecin, et puis jusqu'à ce que vous obteniez un arrêt de travail de 2, 3, 4 jours ou une semaine, selon les symptômes que vous décrivez, sans que le médecin puisse vérifier.
Selon l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale, la mesure pourrait entrer en vigueur au 1er juin prochain. Les arrêts maladie délivrés en cabinet ou par le médecin traitant en téléconsultation seront, eux, toujours remboursés.
Yasmine Akatou.
Allez, les sports, l'équipe de France traverse vraiment une mauvaise passe en football. Bien sûr, défaite hier soir 2-0 face au Danemark.
Les Bleus sont passés totalement à côté de ce match à deux mois du Mondial. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour à tous.
Chef du service des sports d'Europe 1, vous êtes à Copenhague d'où vous nous avez fait vivre ce match en direct hier soir sur Europe 1. Bon alors certes, de nombreux titulaires étaient blessés, mais les Français ont surtout, il faut le dire, montré d'inquiétantes lacunes quand même.
Oui, c'est difficile d'être optimiste hein, ce matin sous le ciel plombé de Copenhague. On était pourtant resté sur une victoire prometteuse jeudi contre l'Autriche, mais hier soir rien ou presque n'a fonctionné. La défense jeune expérimentale a pris l'eau de toutes parts. Le milieu a été dépassé par la vitesse, les enchaînements danois, les attaquants ont eu très peu de ballons pour marquer, 0 pour Giroud, un peu plus pour Mbappé, mais la star du PSG n'était pas dans un bon soir. Voilà, c'était le dernier match avant le Mondial, la dernière occasion de briller avant le Qatar. Personne n'a marqué de points, le tout dans un contexte, on va dire, plombé par les affaires et les polémiques.
Bon Jean-François, justement, la Coupe du Monde, on y croit pour les Bleus ou pas alors ?
Oui encore, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que Didier Deschamps va forcément récupérer des joueurs fondamentaux, le capitaine Lloris en tête, avec lui, avec eux, plus d'expérience, de calme, de rigueur, d'exigence. Et puis les Bleus pourraient rallier le Qatar avec un ballon d'or dans l'avion. Karim Benzema, absent hier soir, l'attaquant du Real, qui est le prétendant numéro 1 pour succéder à Lionel Messi au palmarès, cela pourrait rebooster tout le groupe. Alors oui, si les planètes s'alignent de nouveau, l'équipe de France s'avancera comme l'une des favorites de ce Mondial.
Merci beaucoup Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Ce sera à vivre bien sûr ce mondial sur Europe 1. Puis j'en profite puisqu'il y a un autre mondial en cours en ce moment en Australie, le mondial de basket féminin. La France affronte le Japon ce matin. Le match a commencé il y a exactement 8 minutes et 9 secondes.
Et 9 secondes, 8 10, heures, 11 déjà. Voilà, oui, 9, c'est 9. Fou comme le temps passe. Merci. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. A tout de suite. Votre invité Sonia Mabrouk ce matin est le secrétaire général de la CFDT.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Elle devrait être la première femme à diriger l'Italie. Giorgia Meloni revendique sa victoire aux législatives. Qu'incarne-t-elle pour vous ?
L'extrême droite.
C'est-à-dire ?
L'extrême droite, c'est-à-dire une vision rétrécie de ce que doit être une nation. Une vision de la place des femmes dans la société qui est davantage à la maison quand l'espace public est dans le travail, un rapport à l'étranger qui est refermé sur elle-même. Enfin voilà, je pense que c'est l'extrême droite. On entend ultra conservatrice. En fait, c'est l'ancien parti néo-fasciste qui arrive au pouvoir avec cette femme, avec Madame Meloni. Voilà, c'est ça. Elle représente ce que je crois le syndicalisme européen que je représente comme président de la CES essaye de combattre.
Mais justement, donc, européen, dites-vous, Laurent Berger, en Italie ou en Suède, les électeurs de ces coalitions veulent plus de sécurité, moins de délinquance, moins d'immigration, plus de justice. C'est être d'extrême droite de vouloir cela ?
À de vouloir plus de sécurité, de vouloir plus de justice, c'est pas d'être d'extrême droite, pas du tout.
Donc.
Mais ils veulent plus de justice sociale aussi, ils veulent, mais c'est pas la bonne voie, je le dis et je
l'assume. Ils ont mal voté alors ?
Oui, je crois, ouais, mais je crois. Bien sûr, je crois que dans ces pays, malheureusement, il n'y a pas d'offre politique suffisante pour montrer qu'il y a une voie qui soit une voie ouverte, une voie européenne. Parce que vous savez, Madame Meloni.
La Suède, la social-démocratie, a été pendant des années au pouvoir.
Vous savez, Madame Meloni, elle ne s'en sortira pas sans l'Europe. Elle le sait pertinemment. Elle a fait une campagne anti-européenne. Elle ne peut pas dire, Madame Meloni, qu'elle va refermer toutes les frontières, ça ne marchera pas comme ça. Donc, je crois que y a les forces politiques républicaine, d'une certaine manière, en tout cas si on se passe sur le terrain national, elle n'offre pas aujourd'hui suffisamment de clarté sur ces sujets-là.
C'est aux populations de choisir. Je suis interpellée par ce que vous dites, Laurent Berger. Ils auraient mal voté. Ce que je dis, la présidente. Ursula von der Leyen dit qu'il y a des mesures de rétention si les peuples votent mal. On en est là.
Non, j'ai dit qu'à mon sens, ils auraient mal voté. Je suis encore un citoyen qui a le droit de dire ce qui, je pense, est un bon vote ou un mauvais vote. Et moi, je le dis, considérer que l'extrême droite serait, dans nos démocraties européennes, quelque chose de finalement un aléa normal de l'alternance, ça veut dire qu'on a des démocraties qui sont malades.
Mais qui a favorisé cela ?
Quand on connaît la Suède, sa tradition social-démocrate, sa tradition de dialogue, d'avoir ce parti, moi j'y suis allé il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était à l'époque encore un parti qui était minoritaire. Ce parti soi-disant démocrate, c'est comme ça son nom, qui arrive aux portes du pouvoir dans une coalition, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui s'est opéré vers l'extrême droite.
Mais lequel ? Mais allons plus loin dans les causes, Laurent Berger, qui a favorisé cela ? Qui a mis les problèmes sous le tapis comme la poussière ? Qui, pendant des années ? N'est-ce pas ceux dont vous appelez aujourd'hui à être au pouvoir, c'est-à-dire la social-démocratie, une partie de la gauche,
personne à être au pouvoir. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre les affaires. C'est-à-dire qu'il faut pas chercher des coupables ou des responsables du truc. Je pense que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les peuples sont plus rassurés d'aller vers des dirigeants, c'est pas encore majoritaire heureusement en Europe, mais ça se propage malheureusement, des dirigeants qui sont d'extrême droite. C'est sans doute parce qu'il y a des questions auxquelles ils ne trouvent pas réponse et parce qu'il y a une incertitude face aux profondes transformations qui sont celles de nos sociétés sur lesquelles
mais
on n'a pas apporté les bonnes réponses.
Pourquoi il n'y a pas de réponse ?
Peut-être parce que tout simplement, on n'est pas parti suffisamment des situations réelles des citoyens. Et on est trop dans les questions théoriques. Je crois que la social-démocratie, si on prend l'exemple de la Suède, elle s'est trop reposée sur une logique un peu établie.
Vous avez vu la campagne en Suède ? Délinquance, immigration, sécurité, c'était le triptyque de cette campagne. Vous n'en parlez pas du tout, c'est comme si c'était des sujets
absents. Non, c'est pas vrai, mais vous n'avez pas le droit de dire un truc pareil. Je vous le dis, vous n'avez pas le droit de dire un truc pareil. La CFDT, elle en parle. Vous savez, nous, on est très conscients que les questions de sécurité, par exemple, ça touche d'abord les personnes les plus fragiles. Et les personnes qui sont parfois stigmatisées par l'extrême droite d'ailleurs. Hein ? Parce que quand vous êtes en situation dans des endroits où il y a de l'insécurité, vous êtes assez peu considéré en général par la classe politique. C'est-à-dire, moi ce que je considère, mais on a le droit de ne pas être d'accord sur ce sujet, c'est que l'extrême droite, c'est aujourd'hui plus un danger pour nos sociétés qu'une solution. Et que ce qui se passe en Europe est extrêmement dangereux. Et moi je le dis, je ne suis pas... je ne dis pas que les gens ont mal voté, que les citoyens italiens ont mal voté. Je dis simplement que l'Europe, elle a le droit, la Commission européenne, les dirigeants européens ont le droit de dire à des dirigeants, et ils ne le font pas assez d'ailleurs avec M. Orban par exemple, ils ont le droit de leur dire, écoutez, si vous considérez que l'Europe n'a pas voix au chapitre, que construire une communauté commune au-delà d'un marché commun, mais aussi une société européenne, ce n'est pas bon pour vous, ne venez pas quémander
à
l'Europe.
En quel nom ? À quel nom Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et donc non élue, peut dire aujourd'hui à des populations qu'il y aura des mesures de rétorsion ?
Non, mais ça, c'est pas juste ce que vous dites, non élue. Elle est désignée par des chefs d'État qui sont eux-mêmes élus.
Je n'ai pas dit l'inverse, je dis qu'elle est non élue par des populations.
Oui, donc elle est légitime démocratiquement.
Elle est non élue par des populations.
Elle est légitime démocratiquement.
Elle est non élue par des populations.
Oui,
Monsieur Berger, je n'ai pas dit quelque chose de faux.
Un sénateur, Madame Mabrouk, il est élu par la population. Est-ce qu'il est légitime démocratiquement ? Il fonctionne dans notre démocratie. Il a un rôle dans notre démocratie. Donc, c'est le système de la désignation de la présidente de la Commission. Et ce que je dis, je ne veux pas la défendre à tout craint, ce que je dis, c'est que les régimes illibéraux, comme on dit, c'est-à-dire en Pologne, en Hongrie, les régimes d'extrême droite, ils ont légitimité dans leur pays, ils ont été élus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais à un moment donné, ils ne peuvent pas être un peu dedans et un peu dehors en Europe. Et c'est logique que l'Europe, y compris sur les droits fondamentaux élémentaires, puisse rappeler ce qu'est-ce que sont nos règles communes.
Alors parlons à présent, Laurent Berger, de la légitimité des réformes à mener dans notre pays, la France. Le gouvernement présente aujourd'hui, évidemment il y a le projet de budget, il y a aussi le projet de sécurité sociale. S'il y a un amendement sur les retraites dans le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on veut vraiment écouter ce matin quelles sont les lignes rouges. Est-ce que vous serez en opposition frontale, totale, définitive ?
Le sujet des retraites, ce n'est pas qu'un sujet budgétaire. C'est un sujet social qui a un lien avec le travail, un sujet sociétal, ce qu'on veut faire dans notre société. Le faire rapidement loosedé d'une certaine manière dans un amendement PLFSS, c'est inacceptable pour la CFDT. On a besoin d'un vrai sujet, un vrai débat. Qui intègre quoi ? Qui intègre la question de l'équilibre des retraites ? C'est pas un sujet tabou pour la CFDT. Moi, j'entends dire ici ou là que la CFDT serait pas responsable. La CFDT en 2003. La CFDT, en 2013, elle s'est positionnée pour des mesures d'allongement.
On peut dire qu'en 2003, pardonnez-moi l'expression, je ne veux pas être trivial, mais vous en êtes pris plein la figure.
Oui, mais
pour
on
vous
a
être engagé sur les retraites.
Mais en 2003, on a assumé. Et puis depuis 2003, il y a plus d'un million de personnes qui sont parties pour carrière longue.
Il y a eu
en
2013.
Retraite de façon anticipée. Mm-hmm. 2013, on a construit aussi, on a participé à la construction de cette réforme, tout simplement parce qu'il y avait des mesures de pénibilité qui ont été remises en cause derrière. Donc la CFDT, elle a toujours assumé sa responsabilité quand il y avait des mesures de justice sociale en face. Donc, mais la question des retraites, c'est une question liée à l'équilibre du régime des retraites. C'est pas un sujet tabou pour nous. Au travail, à l'évolution du travail. Et c'est une question liée à l'emploi des seniors. Aujourd'hui, à partir de 55 ans, vous êtes dehors dans beaucoup trop de cas.
S'il y a une étude qui vient de sortir... 40% des personnes qui terminent leur carrière ne sont plus en emploi. Ils ont été poussés vers la sortie.
Et donc, vous ne pouvez pas gérer le sujet des retraites par le seul bout budgétaire. Et c'est ce qui serait fait si c'était dans le PLFSS.
Mais est-ce que vous voulez vraiment d'une réforme des retraites ? En réalité, ce matin, Laurent Berger, beaucoup en doute. Est-ce que vraiment Laurent Berger veut vraiment d'une réforme ?
Ils
vous font un procès en irresponsabilité.
En 2017, le président qui est actuellement en place, qui venait de se faire élire, portait une vision du système des retraites qui était celle que nous portions à la CFDT, qui est un système universel. C'est-à-dire pour plus de justice. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le système actuel, il est profondément inégalitaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? On a voulu mettre une réforme budgétaire en même temps que cette réforme de fond, et la réforme a capoté. Il y a eu le Covid qui a fait capoter ensuite. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut travailler pendant 6 mois sur ce sujet-là, qui avec le sujet retraite, le sujet travail, le sujet emploi.
Encore du temps pour la concertation, la négociation, mais c'est un débat permanent,
savez,
les retraites.
Madame Marouk, on a le choix de faire autrement. Allez, passons en force. Que le gouvernement passe en force dans le PLFSS, et vous verrez ce qui se passera. Il y aura une opposition qui sera frontale, de la part des organisations syndicales et notamment de la part de la CFDT, je le dis. Et en plus, il y aura dans la société un climat qui s'instaurera au moment où il y a profondément des incertitudes liées à l'inflation, au prix de l'énergie, etc. On va mettre tout un tas de gens dans une situation de mécontentement très fort et avec les conséquences que ça peut avoir. Voilà, on parlait d'Italie tout à l'heure, pourquoi pas d'ailleurs ? Vous voyez, c'est exactement ça qui peut se passer.
Et donc la menace est lourde ce matin.
Ben oui, je crois qu'on risque de casser le corps social. Aujourd'hui, je vais vous dire le ressenti. On peut critiquer la CFDT tant qu'on veut, mais on ne peut pas nous dire qu'on est déconnecté du réel. Le réel, c'est des travailleurs aujourd'hui, des salariés qui sont dans l'incertitude et l'inquiétude liées à la situation et aux transformations qui sont les nôtres. Notre modèle productif, la transition écologique, la question de l'inflation, de la géopolitique. Eh bien, si on veut remettre de l'inquiétude par-dessus tout ça, on fait ce passage en force par le PLFSS.
Laurent Berger, juste une question. S'il y a ce passage, comme vous dites, par un amendement dans le PLFSS, mais il pourra toujours y avoir une négociation sur les mesures de justice après, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de tendre la main ?
Ça s'appelle acheter un appartement sans l'avoir visité.
Ah oui, non, il vaut mieux pas.
Vaut mieux pas. Ça veut dire que, vous savez, ce coup-là, il a déjà fait. Si le gouvernement disait, on fait une mesure d'allongement de report de l'âge dans le PLFSS, puis on dira, mais on va travailler sur la pénibilité, mais on y travaillera plus tard. On se rappellera un petit peu que le compte pénibilité qui existait, il a été remis en cause en 2017 à l'arrivée de ce président de la République. Donc non, ça ne marche pas. Il faut qu'on travaille sur l'emploi des seniors. L'emploi des seniors, on va tolérer combien de temps encore ? Qu'on ait des appels, y compris de certains responsables pas trop doux, en disant qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans, quand à partir de 55 ans, on en met dehors autant ? On va tolérer ça combien de temps ? Est-ce qu'on trouve la solution pour que les gens travaillent vraiment jusqu'au bout ?
Ça, c'est une question fondamentale, on est d'accord avec vous. La question budgétaire, le corps, le conseil d'orientation des retraites, à qui tout le monde fait dire ce rapport ce qu'il veut. Il dit quand même que ça ne va pas tenir. Il n'y a peut-être pas le feu au lac, comme vous dites, mais ça ne va pas tenir. Qu'il y aura urgence dans 1 an, 2 ans et 5 ans. Et Laurent Berger, vous savez mieux que moi
qu'une réforme des retraites... Le rapport du corps ne dit pas qu'il y aura urgence.
Non, une réforme des retraites, ça prend du temps pour infuser. Donc dans 2-3 ans.
Non, mais le rapport du corps ne dit pas qu'il y a urgence dans 2 ans.
Dans 2-3 ans.
Non, il ne dit pas qu'il y a urgence dans 2 ou 3 ans.
Vous avez
ans,
vu,
le
chacun le lit à sa manière.
Non, mais non, le rapport du corps, il y a deux manières... deux façons dont il ne faut pas le lire. La première qui consisterait à dire qu'il n'y a pas de sujet budgétaire. La CFDT n'a jamais dit ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas le feu, mais qu'il y a un sujet, il faudra le poser. On n'a jamais fait autre chose dans les années précédentes. Jamais, jamais. De l'autre côté, il y a ceux qui vous disent « c'est horrible, le système va s'effondrer ». C'est faux, archi faux. Après, je le dis aussi, le rapport du corps, il est parti sur une hypothèse économique et de chômage qui est différente de ce sur quoi se base le gouvernement pour bâtir ses prévisions par ailleurs. Ce n'est pas très logique quand même, avouez-le. Donc, on peut effectivement l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Nous, ce qu'on dit, et c'est ce qui compte finalement, ce qui compte, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'on peut traiter le sujet des retraites, y compris dans sa question d'équilibre budgétaire, mais il faut qu'on travaille sur l'emploi, sur l'évolution du travail, sur la pénibilité, sur les carrières
des femmes.
Vous
voulez une réforme globale, ce que vous avez toujours voulu. Bah, là, vous êtes cohérent. Bon, et est-ce que la durée de cotisation reste pour vous, Laurent Berger, le paramètre le plus juste?
Mais la durée de cotisation, elle continue d'augmenter. Quand j'entends des gens qui disent le système, ça fait 35 ans qu'il n'a pas bougé, soit je pense que ce sont des gros menteurs, soit je pense que c'est des incompétents. Le système, il bouge en permanence, il continue de bouger. Il faut le savoir, il faut que vos auditeurs le sachent. La durée de cotisation continue d'augmenter depuis 2013 avec cette fameuse réforme Touraine. Donc la question, elle est pas que les gens ne continuent pas de travailler plus longtemps. Parce que le rapport du corps, il dit quoi? Il dit qu'à terme, le départ moyen en retraite, ça sera 64 ans. Aujourd'hui, il est de combien? 63 ans et quelques mois. 63 ans et un mois, ou deux mois, ou trois mois, il évolue. Et ça veut dire qu'il faut arrêter de faire croire que les gens ne voudraient pas travailler plus longtemps.
Berger, depuis tout à l'heure, on parle des retraites. Juste avant notre interview, dans l'éditorial de Vincent Trémollet du Figaro, il a listé tout ce qui était urgent. La santé, notre hôpital, si mal en point, l'école, l'éducation, et là les retraites. Mais qu'est-ce qui est urgent? Tout en même temps? Sans oublier évidemment la transition énergétique.
Je crois que ce qui est urgent, c'est de se fixer un cap. Il y a celui de la transition énergétique et écologique. Non, je ne crois pas qu'on en ait.
Le président a...
Non, mais je crois qu'on est...
Second quinquennat n'a pas de cap.
Vous parlez de l'éducation, vous parlez de la santé. Vous savez, aujourd'hui, on a des indicateurs qui sont trop restreints. Il faut un indicateur économique, ça s'appelle le PIB. Mais enfin, on avait le meilleur système de santé. Il n'est encore pas si mauvais que ça, mais il est en souffrance. Pourquoi on n'a pas un indicateur très fiable sur la question de la santé, sur l'éducation, qui est un système qui est aussi en difficulté? Eh bien, tout ça... Il faut regarder comment on les fait évoluer. Le gouvernement a lancé le Conseil national de la refondation, la CFDT, avec des choses assez précises. Sur la santé, j'ai vu le ministre de la Santé la semaine dernière, il y a des choses dans les territoires qui peuvent se monter, parce que c'est aussi là que ça va se jouer. Eh bien, il faut laisser sa chance aux produits, comme disent certains. Et donc, je pense qu'il faut avoir le temps de la discussion et de savoir comment on finance. Et là où il y a un problème fondamental, un désaccord fondamental avec le gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il considère que tout ça se finance parce qu'il faudrait travailler plus longtemps. Mais je vais vous dire une chose, c'est que d'abord, il y a plus de Français qui travaillent qu'il n'y en a jamais eu ces 25 dernières années. Il y a un taux d'emploi qui est plus élevé. Le seul problème, c'est qu'on ne travaille pas assez au début de la carrière, on ne travaille pas assez à la fin. Et pourquoi on ne travaille pas assez à la fin? Parce qu'à partir de 55 ans, on fout les gens dehors. Donc, il faut arrêter avec l'idée que d'abord, un, ce serait le seul travail qui financerait ces piliers indispensables de notre démocratie et de notre société, que sont la santé ou l'éducation, par exemple. Et deux, il faut arrêter de croire que on pourra parler de travailler plus longtemps sur la carrière si on ne commence pas à dire qu'on peut travailler jusqu'au bout de sa carrière.
On a bien entendu ce matin vos lignes rouges. Une dernière question d'actualité ce matin, la démission de Julien Bayou de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de président du groupe à l'Assemblée. Il est au centre de la polémique pour des faits supposés de violence psychologique plus largement. Et d'ailleurs, pour un responsable politique ou syndical, un responsable soupçonné aujourd'hui ne peut plus se maintenir, même s'il n'y a pas de plainte, même s'il n'y a pas d'enquête.
D'abord, une personne, je vais être très clair, mais il faut être très clair en la matière. Toute personne qui a des faits avérés ou avoués de violence sexiste ou sexuelle, out. Après, la question, c'est vous me demandez de commenter la situation d'une personne dont on ne sait pas, personne autour de cette table et personne nulle part ne sait ce qui lui est reproché. Donc je ne vais pas le commenter. Je ne sais pas qu'est-ce qui le motive à démissionner et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis irréprochable et la CFDT se veut irréprochable sur cette question des violences sexistes et sexuelles, ces violences faites aux femmes. Il faut l'être.
Mais attention à ceux qui...
Il faut pas tomber
qui
non
ont fait
plus.
Donner des leçons et qui après se sont retrouvés arroseurs arrosés. C'est
oui,
le cas
bien
aussi
sûr.
Beaucoup de...
Oui, bien
de,
sûr, c'est le cas de
gauche.
Tous les gens. Il y a ceux qui ne peuvent pas regarder dans les yeux et ceux qui peuvent regarder dans les yeux en la matière. Mais ce qui est sûr, Madame Mabroup, c'est que lorsque les faits ne sont pas connus, moi, je ne fais partie de ceux qui ne peuvent pas les commenter.
Merci Laurent Berger. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Tiens, information de dernière minute, Elisabeth Borne vient de dire que concernant les retraites, une décision sera prise d'ici la fin de la semaine. Il faut la mettre en œuvre rapidement, dit la Première ministre, en laissant la place au dialogue.
Et la mise en garde voilà. Ce matin de Laurent Berger.
Ça me paraît clair. 8h29 sur Europe 1 dans un instant. La signature du jour sera Philippe Val. On va parler de l'humour et on parlera de Fessenheim. Histoire alsacienne avec Emmanuel Ducrot pour son voyage en Absurdie juste après, 8h29.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri.
Dimitri Pavlenko.
Il est 8h32, le journal permanent. Christophe Lamarre.
Julien Bayou n'est plus le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il quittera dans la foulée la coprésidence du groupe à l'Assemblée. Le député écologiste l'annonce ce matin dans un communiqué. Il entend conserver son siège à l'Assemblée, mais parle d'une situation intenable. Julien Bayou dit regretter de ne pouvoir se défendre des accusations de violence psychologique portées par son ex-compagne. Giorgia Meloni promet de gouverner pour tous les Italiens et revendique le poste de première ministre. La chef de file du parti ultra-conservateur Fratelli d'Italia est la grande gagnante des élections législatives italiennes. Les résultats encore partiels l'accréditent de 26% des voix devant les autres formations de la coalition des droites. Les réactions politiques à cette victoire de la coalition des droites italiennes sont nombreuses en France. Pour Marine Le Pen, le peuple italien a décidé de reprendre son destin en main. Cette victoire est la preuve que l'on peut arriver au pouvoir, ajoute Éric Zemmour. À gauche, Clémentine Autain pour la France insoumise dénonce la prise du pouvoir des héritiers de Mussolini. Présentation aujourd'hui en Conseil des ministres du projet de budget pour 2023. Il sera aussi question du financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Le texte ne fait pas mention d'une réforme des retraites. L'exécutif entend pourtant bien rouvrir ce dossier sensible. Reste la question de la méthode, simple amendement ou projet de loi à part entière. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron trancheront d'ici la fin de semaine. C'est ce que vient de préciser la Première ministre ce matin sur BFM. Elle confirme par ailleurs l'augmentation du prix du tabac qui suivra celui de l'inflation.
Merci Christophe Lamarre. Le ciel, Anissa Dadi, voilà les températures qui dégringolent en chute libre.
Ah oui, voilà, vous avez dû le sentir si vous êtes sorti ce matin sur une partie nord du pays. Il fait plus frais, 4 à Nevers. 6 degrés ce matin à Rodez et à Metz, 8 pour Clermont-Ferrand et Lorient, 11 degrés à Paris et à Biarritz, 16 à Nice et 17 pour Ajaccio. Il fait toujours très doux. Cet après-midi, on va vraiment la sentir, la différence de température. Couvrez-vous, 14 degrés seulement cet après-midi à Belfort, 16 à Besançon, Saint-Étienne, Paris, Dunkerque, 18 degrés à Brest, Rennes et Cherbourg, 21 pour Bordeaux, 23 à Nice et Marseille et 25 pour Ajaccio et Bastia. On a un beau 26 degrés aussi, c'est la maximale à Antibes. Alors dans le ciel, par endroit, on va avoir du mal à voir le jour se lever. On a l'impression qu'il va faire nuit toute la journée, comme par exemple le long des côtes de la Manche. Hein, on a un ciel très gris, très épais, avec des pluies fréquentes, importantes toute la journée, du vent fort jusqu'à 90 km/h. Et puis les nuages, au fil des heures, vont avancer pour recouvrir toute la moitié nord, avec des averses cet après-midi. Il y a une zone où le soleil résiste encore, ce sont les plus chanceux. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est au bord de la Méditerranée que ça se passe, entre le golfe du Lion et la Côte d'Azur et la Corse. Très beau soleil, mais du vent. Mistral et Tramontane.
Merci beaucoup Anissa, 8h34.
7h, 9h,
Europe Matin.
C'est l'heure des signatures sur Europe 1. Bonjour Philippe Val.
Bonjour Dimitri.
Dans un instant, Emmanuel Ducrot sera avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour Philippe, bonjour à tous.
Pour une histoire alsacienne ahurissante que vous nous racontez d'ici 3 minutes. Mais d'abord Philippe, tiens, j'ai une petite citation pour vous. L'humour, c'est la politesse du désespoir, ai-je entendu ce matin sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est une des bonnes définitions de l'humour, pas mal. Dans l'histoire de l'humour, on retrouve fréquemment le couple de l'Auguste et du clown blanc. C'est un archétype qui, pour le meilleur et pour le pire, court tout le long de notre histoire culturelle. Alors, Don Juan et Sganaret, Le Roi Lear et son fou, Don Quichotte et Sancho Panza, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Sherlock Holmes et le docteur Watson, Léa Salamé et Christophe de Chavannes, la liste est interminable. Et elle fait l'inusable succès des cirques et des arènes. Il arrive que dans cette dialectique du grotesque et du guindé, que cette dialectique s'étende à des groupes humains. C'est précisément ce qu'on observe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où la NUPES joue le rôle de l'Auguste et le Rassemblement national celui du clown blanc. La première arrive sur la piste pour mettre la pagaille avec son nez rouge et ses grandes chaussures. L'autre lève démesurément un faux sourcil pour exprimer son indignation.
Alors, mais quel rapport avec la gifle qui a défrayé la chronique toute la semaine dernière, Philippe ?
Eh bien, c'est que la gifle est un des principaux ressorts du comique des clowns, y compris dans les tragicomédies du malicieux Corneille. On se souvient du Cid, acte 1, scène 4, le comte, ton impudence, téméraire vieillard, aura sa récompense, et vlan, le comte fout une gifle à Don Diègle qui surréagit avec grandiloquence. Achève et prends ma vie après un tel affront, le premier dont ma race est vue rougir le front. Ah oui. Toute l'histoire du Cid repose sur cette main venue claquer la joue de Don Diègle. Le bruit d'une gifle fait résonner des siècles de duels mêle d'assassinats, de catastrophes et de grosses poilades sous les chapiteaux de Zavatta.
Alors le problème, Philippe, c'est que l'Assemblée nationale, ça n'est pas un cirque. C'est le cœur de la démocratie, un peu de sérieux, voyons.
Et c'est la raison pour laquelle Adrien Quatennens et ses amis, les Augustes de la NUPES, viennent d'obtenir un incontestable succès en monopolisant pendant plusieurs jours l'attention de tous les commentateurs politiques. Car, comme disait Jean Anouilh, on ne frappe pas une femme, même avec une fleur, et j'ajouterais un homme non plus, parce qu'il n'y a pas de raison.
Vous semblez traiter avec légèreté, avec votre humour corrosif habituel, un geste fondamentalement inacceptable quand même, Philippe.
Pas du tout. Je condamne sans appel tout recours à la brutalité dans les rapports humains en général, et en particulier la violence de la domination masculine qui s'exerce contre les femmes, dont je considère qu'elle est un crime contre la dignité humaine. Mais il se trouve que la NUPES, qui est une coalition d'infatigables redresseurs de tort, est tout entière éclaboussée par cette gifle.
Il semble que Jean-Luc Mélenchon le paye d'ailleurs très cher. Hein.
C'est vrai, et c'est justice. Mais on peut regretter d'avoir attendu qu'une gifle vienne ternir l'étoile de la gauche radicale, alors qu'il y avait déjà bien d'autres raisons pour qu'elle pâlisse.
Avez-vous un exemple ?
Oui, eh bien, samedi soir, dans l'émission « Quelle époque ?», au terme d'une semaine où le fameux soufflet a fait rougeoyer la braise médiatique, on a vu Mélenchon, magnanime, accepter d'être critiqué pour son tweet « Solidaire du mari gifleur et oublieux de l'épouse giflée ». Mais qu'en est-il de sa gifle symbolique aux victimes des dictatures cubaines et vénézuéliennes et de la gifle aux 100 millions de victimes du communisme au XXe siècle, assénée par cette gauche obstinément hostile au travail de mémoire? Et quand Mélenchon défile à Paris avec des islamistes et des femmes voilées, sa gifle aux femmes iraniennes qui se font assassiner parce qu'elles veulent sortir tête nue, et sa gifle à tous les démocrates quand il est félicité par l'ambassade de Chine pour son soutien à la politique de Xi Jinping? Certes, ce sont des gifles symboliques, mais elle ne claque pas moins fort que les autres. Et puisqu'on est au cirque, on se dit qu'il y a des coups de pied au cul symboliques qui se perdent.
Merci beaucoup, Philippe Val. Tiens, c'est Yann Moix qui sera demain à votre place. Bonne semaine, mon cher Philippe. 8h39. Merci. Emmanuel Ducrot, du journal L'Opinion. Alors, un petit voyage en Alsace ce matin. C'est bien l'Alsace. On va à Fessenheim. On ne va pas parler de la centrale nucléaire, puisqu'elle est arrêtée depuis juin 2020, mais de tout ce qui se passe autour et qui est presque aussi absurde d'ailleurs.
Oui, c'est un article du journal L'Alsace qui m'a fait recracher ma choucroute il y a quelques jours. On y apprenait qu'une structure d'investissement appelée Novarena allait mettre la clé sous la porte en octobre après un an et demi d'existence. Cette société, je vous passe les détails administratifs, devait s'occuper de la réindustrialisation de la région de Fessenheim après la fermeture de la centrale, avec de l'argent public et de l'argent privé. C'était une promesse de François Hollande de remplacer emploi et rentrée fiscale après la fermeture de la centrale.
Voilà, donc cette fameuse Novarena, société d'investissement public-privé, va s'autodissoudre. Et pourquoi ? Parce qu'elle a accompli sa mission ?
Elle ne l'a jamais commencée. Pourtant, on promettait monts et merveilles. Il était question d'une extension d'un port sur le Rhin qui devait tripler de surface. Il devait y avoir une zone industrielle de 220 hectares, un centre d'affaires transfrontalier, promesse de 130 millions d'euros de volume d'affaires annuel et puis du travail pour remplacer les 2000 emplois directs et indirects de la centrale. Dans les faits, rien. Nichts, comme on dit de l'autre côté de la frontière ou même en Alsace. Novarena n'a pas engagé un seul projet, pas créé un seul emploi et va donc se saborder. Dans l'affaire, on a englouti un demi-million d'euros de fonds publics.
Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui explique un tel ratage dans la réindustrialisation de Fessenheim ?
Un festival. Un festival qui illustre la difficulté de bâtir quoi que ce soit en France. Un enchaînement de n'importe quoi avant même le sabordage de la Novarena. Pour des raisons environnementales, le port rhénan n'a pas eu les surfaces promises pour grandir. Il a finalement décidé de se débrouiller tout seul pour les travaux, histoire de gagner du temps sans s'embarrasser de l'administration. Et puis, il y a eu l'affaire croustillante de la zone industrielle de Fessenheim. On a découvert en la délimitant l'ADN d'un crapaud d'une forêt voisine que personne n'a jamais vu là. Pour protéger le crapaud fantôme, on a fermé les trois quarts de la zone prévue.
Ah oui.
Tant pis pour la réindustrialisation de Fessenheim.
Donc Fessenheim, d'une certaine manière, c'est un peu le meilleur et le pire de la France au même endroit. Hein.
Ah oui, pour le meilleur, la capacité fantastique qu'a eu notre pays à se bâtir une indépendance énergétique décarbonée, avantage pendant des décennies.
Pour le pire, sa capacité presque aussi admirable à détruire un à un ses atouts. La fermeture de Fessenheim, centrale bien entretenue, fonctionnelle, a été décidée par opportunisme électoral sous François Hollande. Elle a été assumée, on ne sait au nom de quelle loyauté, par tous les gouvernements successifs à qui nous devons la panade énergétique dans laquelle nous sommes. C'était le premier assassinat de Fessenheim. Le second a été perpétré par le délire bureaucratique et la lâcheté politique. Entre normes environnementales devenues folles et comité Théodule spécialiste en noyage de poissons, Fessenheim incarne la trahison de la parole publique. Il suffit désormais de prononcer ce nom pour donner aux citoyens le sentiment qu'on se fout d'eux.
Un noyage de poissons et largage de crapauds, apparemment, si j'ai bien compris.
Oui, c'est une histoire folle, cette histoire du crapaud de Fessenheim.
Ah oui, voilà, donc d'un coup, ce crapaud se trouve sur... C'est incroyable, incroyable. Bon, ben voilà, il y a combien d'emplois détruits à Fessenheim depuis...
2000. Ouais. 800 pour la centrale et puis les emplois induits.
Merci Emmanuel. On vous retrouve évidemment demain sur Europe 1. On a hâte. Allez, à suivre le club de la presse Europe 1. Carole Barjon-Delop, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Giorgia Meloni. Mais tiens, mais qu'y a-t-il dans son programme? Comment ça va se passer avec la France, avec l'Union Européenne? On va en parler.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Objectivement,
nous avons vécu une campagne électorale qui n'a pas été belle, dans laquelle les tons étaient exagérés. Une campagne électorale violente, une campagne électorale agressive. Cependant, je pense que la situation dans laquelle est l'Italie, ainsi que la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne, est une situation particulièrement complexe à laquelle nous devons faire face. Une situation qui demande, disons-le, la contribution de chacun, qui requiert un climat serein et un respect mutuel qui est à la base de tout système démocratique.
Del confronto in qualsiasi sistema democratico.
Voilà la voix de Giorgia Meloni sur la longueur. Alors elle est sans doute la prochaine présidente du Conseil italien. C'est bien de l'entendre parce qu'on entend qu'après la bataille, voilà qu'elle formule cet appel au rassemblement. Après la large victoire de la coalition dite de centre-droit, emmenée par sa formation les Fratelli d'Italia. C'est vraiment la figure classique d'une élection démocratique, à savoir, voilà, on s'est battu et ensuite on essaie de se rassembler. Voilà donc après la Suède, c'est la deuxième fois en trois semaines que des nationaux conservateurs s'imposent en Europe. Allez, je me lance, hein. J'ai dit nationaux conservateurs pour tenter de qualifier un peu ceux que tous les commentateurs ce matin nous qualifient d'extrême droite. Alors, qui est Giorgia Meloni? Quel est son programme? Quelle relation entend-elle nouer avec l'Europe, la France, avec les bailleurs internationaux de l'Italie aussi? Ah oui, ça compte, hein. Bonjour Charlotte Dornelas.
Bonjour Dimitri.
Journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Carole Barjan.
Bonjour.
Éditorialiste, grand reporter à l'Obs. Tiens oui, les bailleurs, je le dis, hein, la dette publique italienne, je rappelle, 2700 milliards, 150% du PIB italien. Le 10 ans italien, il s'échange à 4,3% ce matin, en très légère baisse. Donc voilà, il n'y a pas d'attaque spéculative en vue sur l'Italie. Mais d'abord, les résultats. Faut-il être surpris de ce score incroyable de Fratelli d'Italia? 26%. Son meilleur score avant, je crois que c'était aux européennes, c'était 6,45% des suffrages, Carole Barjon.
Bah oui, c'est vraiment un triomphe, enfin on peut le dire. Enfin, c'est une victoire nette, sans appel. En plus, non contente que sa coalition l'emporte largement sur la gauche, à l'intérieur même de sa coalition, elle domine très oui. très largement ses deux alliés.
Donc la Ligue de Matteo Salvini.
De Matteo Salvini.
Qui fait 9% à peu près.
Voilà, hein. Et Forza Italia de
Berlusconi
qui fait 8%, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Alors que elle, d'après les résultats qui restent à, quand même à affiner dans la journée, mais elle atteint presque 26%.
Ouais.
Bon, donc c'est une victoire absolument nette. Et les raisons, on les connaît, hein, puisque c'est une coalition que les Italiens appellent de centre-droit.
Mais alors, voilà,
dont
le
on
programme.
Peut dire, nous, que c'est une oui. droite conservatrice.
Oui.
D'extrême droite, je ne sais pas, parce que l'extrême droite, ça a quand même une définition assez précise. Hein. C'est l'antiparlementarisme, c'est le parti unique, la fin de la liberté d'expression, etc. Bon, elle ne préconise absolument pas tout ça. En revanche, c'est vrai qu'elle a fait une campagne très fondée sur rétablissement de l'autorité, maîtrise absolue des flux migratoires, au besoin même par la force, et elle a énormément mis l'accent sur les sujets dits sociétaux.
La famille.
La famille. Sur le fait que... Et elle a fait quand même campagne aussi contre, au fond, contre l'idéologie du genre.
Ouais.
Et elle a été très ferme là-dessus. Voilà. Et moi, je pense que au-delà du fond de sauce, hein, si j'ose dire, qui fait le lit de tous les partis populistes, etc., c'est-à-dire le sentiment de déclassement, parce qu'il est réel chez les Italiens, je pense que ces sujets sociétaux expliquent en partie son succès.
Alors, la soif de respect aussi de l'Union européenne à l'égard de l'Italie. J'ajoute aussi quelques éléments de programme, parce qu'on en parle beaucoup sans dire ce que prévoit de faire Meloni. Politique de grands travaux. Alors, vous rappelez l'histoire du pont de Gênes qui s'est effondré. Hein, ça a beaucoup marqué les Italiens. Développer l'apprentissage, une marque made in Italy, baisser la fiscalité du travail. Alors là, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Hein, pardonnez-moi, mais c'est vrai. Voilà, il faut le dire. Il y a des similitudes. On est dans un programme qui, sur le plan économique, est assez marqué par le libéralisme, une forme de protectionnisme social. Parce que c'est très intéressant, Charlotte Dornelas, je sais que vous avez regardé qui a voté pour les Fratelli d'Italia, pour Giorgia Meloni. On voit que son électorat est extrêmement composite. Ça va du chef d'entreprise de l'Italie du Nord, qui est très libéral, au petit patron, qui lui veut beaucoup de protection. Enfin voilà, donc il y a aussi des risques de tension interne au sein de l'électorat de Meloni.
Bah, elle a réussi à faire ce qu'ici on avait appelé l'union des droites pendant toute la campagne. Elle a réussi à unir en effet des électorats qui socialement sont différents, mais qui s'entendent sur l'essentiel de ce qu'elle a martelé pendant cette campagne. Mais sur la question de l'étonnement, en fait, ces électeurs, on les connaissait déjà. Parce que si on regarde l'histoire récente de la politique italienne, les Italiens avaient déjà choisi cette option à l'époque avec Matteo Salvini. D'ailleurs, le commentaire en France était rigoureusement le même au lendemain de la victoire de Matteo Salvini à l'époque, quand il avait la Ligue. Et Matteo Salvini ensuite s'est rangé derrière Mario Draghi avec l'Union européenne qui déjà à l'époque, souvenez-vous, un commissaire européen dont j'ai oublié le nom depuis, avait dit « Vous inquiétez pas, les marchés finiront par faire voter correctement les Italiens ». Cette phrase était déjà inouï à l'époque. On a Ursula von der Leyen évidemment qui a dit l'autre jour « Vous inquiétez pas si ça tourne vinaigre, on a les outils qu'il faut, qu'on utilise déjà en Pologne et en Hongrie ». Donc c'est un vote qui avait déjà été choisi par les Italiens. Moi ça m'a fait penser au Brexit. Souvenez-vous, la Grande-Bretagne choisit le Brexit et quelques années plus tard on dit « On va refaire un référendum, ça y est, les Anglais ont compris, ils ne vont pas refaire deux fois le même coup ». Et ils ont revoté la même chose. Là les Italiens ont rechoisi Fratelli d'Italia. Je dis ça parce que vous disiez elle est passée de 4 à 26%. En réalité, elle a pris le pourcentage que Matteo Salvini a perdu en se rangeant derrière Mario Draghi.
Elle a siphonné ses deux partenaires. Ouais.
Évidemment, elle a siphonné ses partenaires qui, eux, s'étaient rangés derrière le technocrate revendiqué par Bruxelles parce que les Italiens continuent à avoir les mêmes revendications, évidemment, et majoritairement, si on veut les caricaturer ou les réduire, sur la question en effet économique et la question migratoire, qui sont les deux jambes de tous les populismes, ce qu'on appelle les populismes en Europe. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça continue à étonner.
Sur l'immigration, elle fait
dès
qu'elle dit quelque chose. Hein, ça, c'est vrai. J'ajoute, parce que vous parliez de l'autorité, Carole Barjon, ça, c'est son enquête de Cluster 17 qui nous montre ça. Près de trois quarts des Italiens sont favorables à un présidentialisme fort. En fait, ils voudraient une élection présidentielle comme on a en France, au suffrage universel. Et 4 Italiens sur 10 seraient pour abolir le Parlement, le remplacer par une assemblée de citoyens tirés au sort. Et je crois que ça fait partie du programme de Giorgia Meloni.
Ça fait effectivement partie de son programme.
Révolution institutionnelle,
c'est,
quand même.
Ça répond évidemment à la lassitude des Italiens devant des coalitions, précisément, des gouvernements qui se défont, je ne suis pas sûre. Et ça répond, donc à une demande de verticalité au fond, et donc au fond à l'autorité que réclament les Italiens. Mais là, c'est tout à fait personnel.
Oui.
Là, pour le coup, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, parce que quand on voit les défauts de la présidence, par exemple, à la française, où on concentre quand même les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, avec un parlement godillot, sauf actuellement où il y a une majorité relative.
Ah, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin.
On connaît les défauts de la Ve République, et ce qui est drôle, c'est que elle réclame ça à un moment donné où en France précisément, beaucoup se disent qu'au fond, un régime parlementaire, c'est pas si mal.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut aussi préciser ce que Giorgia Meloni pense de la Russie, pense de l'Ukraine ? Ça me paraît important parce qu'on entend dire, il y avait cet argument de massue de Enrico Letta, donc, qui dirigeait la coalition de centre-gauche, qui arrive avec 19% des suffrages, donc en deuxième place, mais assez loin. Il disait, en fait, cette élection, c'est simple, c'est avec Poutine, sous-entendu si vous votez Meloni, ou bien pour l'Europe. Ça, c'est si vous votez pour nous, Enrico Letta, choisi électeur italien. Voilà le message. L'élection résumée à avec Poutine ou pour l'Europe.
Mais c'est, moi, ça m'a étonné. J'ai été voir précisément ce qu'elle disait. Alors, je ne refais pas toute l'histoire parce qu'évidemment, elle a pu changer d'avis et je ne connais pas tout le parcours de Giorgia Meloni et tout ce qu'elle a pu dire sur la Russie et sur Poutine en particulier. Mais ces derniers temps et pendant la campagne, elle a dit la situation de guerre rend la chose particulière. Nous continuerons à soutenir la politique de l'OTAN, à soutenir l'Ukraine via l'Union européenne, tout en voulant négocier un accord de paix le plus rapidement possible. Donc, il me semble qu'elle a une ligne, tout ce qui est de plus... classique aujourd'hui dans l'Union européenne. J'ai pas vu de discours complètement alternatif sur cette question ukrainienne aujourd'hui.
C'est dans la tradition fasciste d'ailleurs, si je peux dire,
c'est là où elle a bien joué du reste, parce que ses adversaires voulaient l'attaquer là-dessus et sur des déclarations anciennes. Or, ça fait maintenant plusieurs mois qu'elle avait corrigé le tir de manière assez claire en affirmant son soutien à l'Ukraine, etc. Enfin, ce que vient de rappeler
par anticommunisme, les fascistes ont toujours été pro-américains et ont toujours soutenu la fait d'être dans l'OTAN.
Mais le monde a un peu changé quand même, donc ça aurait pu être renversé. Mais en effet, elle a rectifié le tir et de manière extrêmement claire.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quelles conséquences de cette élection va être tirée en France et par les leaders politiques français, pour ce qui nous concerne.
Justement, quelles leçons devraient-ils en tirer, d'après vous, Carole Barjon ?
Eh bien, moi, je pense que ça interpelle forcément Emmanuel Macron, qui, avec un certain nombre d'autres dirigeants européens, et notamment Mme von der Leyen, au fond, pense que l'Europe n'est pas seulement un grand ensemble, ne doit pas seulement être un grand ensemble démocratique, c'est-à-dire qui respecte la liberté d'expression avec des élections libres et un grand ensemble économique, mais qui doit partager tout un certain nombre de valeurs, y compris des valeurs qui touchent à l'intime, au mode de vie, etc. Est-ce que ce modèle-là, avec ce qui se passe en Italie, et peut tenir, je n'en sais rien. Et je pense que ça doit aussi poser des questions à Marine Le Pen, parce que Giorgia Meloni, elle a fait l'union des droites. Et c'est au-delà du fond et du contenu de son programme, la stratégie qu'elle a adoptée est une stratégie gagnante.
Vaste question, pourquoi ça marche en Italie, ça ne marche pas en France ?
Il n'y en a pas d'union, donc déjà, on ne sait pas si ça marche en
France.
Oui,
mais c'est vrai, est-ce que qu'il y a des questions institutionnelles, des questions de chefs politiques ? Ça, c'est évidemment, j'imagine, ça va alimenter les réflexions dans les états-majors des partis de droite. Merci à toutes les deux, Charlotte Dornelas. Valeurs actuelles, Carole Barchon de l'Obs. Merci à toutes les deux. Merci. Culture Média sur Europe 1 dans 5 minutes. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Allez, programme.
Vous avez vu ce qui s'est passé. La fusion M6-TF1 ne se fait pas et on a appris vendredi matin que le PDG de TF1 allait quitter ses fonctions et que le nouveau PDG serait Rodolphe Belmer, ancien numéro 2 de Canal+. Scoop sorti par Olivier Bertali, journaliste média au point. Il sera avec nous et il a aussi des infos sur la suite du rachat d'M6. On parle de milliards. Au sommaire également, Les Rivières Pourpres, la série qui cartonne sur France 2, inspirée du roman d'un des maîtres du thriller français, Jean-Christophe Granger, qui sera notre invité. Et puis un noir, un blanc, Ahmed Silla, Bertrand Huskla. Pourquoi je cite leur couleur de peau ? Parce qu'ils sont à l'affiche de ce film jumeaux, mais pas trop. On découvre qu'ils ont le même ADN. Vous dites c'est un truc de scénariste ? Pas du tout. Il y a une chance sur 1 million, mais ça existe.
D'accord, bon.
Ça vous a laissé sans voix. Hein. Gagner au loto.
C'est une émission scientifique en fait.
Gagner au loto, vous savez combien c'est ? Une chance sur 19 millions. Il y a plus de chances d'avoir un jumeau d'une couleur de peau différente de la nôtre que de gagner le gros lot du loto.
Zut, alors je gagnerai jamais.
Et alors, vous préférez quoi ? Une jambe en bois ou des dents en mousse ? Non, j'en sais rien. Bon, allez, on arrête les
années. Pierre Palmade, sort de ce corps.
Bonne journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis sur Europe 1. Philippe Vandel avec vous jusqu'à 11h. On se retrouve demain, 7h. Bye bye.